Aujourd'hui, nous recevons pour la deuxième fois Frédéric Bidouze. Frédéric, vous êtes maître de conférence à Pau en histoire moderne. Et en mars 2018, et oui, il y a déjà 4 ans, vous croyez que c'était hier, mais il y a 4 ans, vous nous aviez présenté La Commune de Paris, une tragédie franco-française. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages, et même d'une pièce de théâtre.
Oui.
Et oui. Et vous êtes auteur donc de très nombreux ouvrages, et en particulier, parce que vous avez fait plein de choses, mais là, en ce moment, ceux-là sont consacrés, ce que vous voyez là, aux États généraux et la Révolution. Et aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, vous allez nous présenter les États généraux de 1789, Concorde, Discorde, Révolution. Je ne sais pas si ce sera sur votre plan, mais en tout cas, vous avez tout résumé. Et nous allons vous écouter, mais je voudrais que vous saluiez aussi la présence de Frédéric Bidouze, qui a fait un long parcours pour venir jusqu'à nous. Vous venez d'Ussel, vous n'avez passé par Bordeaux, non,
Ussel. En venant de Pau.
En venant de Pau, Bordeaux.
Pour parler.
Ussel.
À Bordeaux, mais pas à Ussel, mais à Sarlat.
Sarlat, non, Ussel c'était familial.
Voilà.
Sarlat, et vous rentrez ce soir à Pau.
Voilà.
Merci monsieur de faire tous ces kilomètres pour nous. Et en attendant, nous allons vous écouter.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi. Vous voyez, je viens de Bordeaux, de la salle de l'Athénée, très grande salle, beaucoup de monde, mais bon, c'est pas la même atmosphère, c'est pas la même. Je dirais bien que la chaleur y est, mais c'est la ville, hein, vous savez ce que c'est. Mais c'était très bien à la salle de l'Athénée lundi, mais j'avoue que j'avais l'impression presque d'être venu 2 fois à Sarlat, tellement nous avons de contacts. Et je connais votre programme de conférence régulièrement parce que je suis mis au courant grâce à votre bulletin. Alors je suis ravi d'être là aujourd'hui. Alors je n'ai pas écrit de très nombreux ouvrages, c'est trop exagéré. Par contre, ce que je voudrais vous expliquer en quelques minutes, je suis universitaire, je travaille à l'origine, j'ai fait une thèse, vous savez que c'est toujours le point de départ, parfois c'est toujours le même point d'arrivée du chercheur, mais bon, c'est logique. Aussi, comme disait Sartre à propos de Raymond Aron, hein, mais sur les remontrances du Parlement de Navarre au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai commencé mes travaux d'historien, d'abord sur les clubs révolutionnaires, d'ailleurs, hein, ça je ne vous l'ai pas dit, vous voyez, mais sur le Parlement de Navarre, c'est-à-dire, vous savez, sur ces magistrats de l'Ancien Régime, qui étaient officiers du roi, qui étaient à la fois ceux qui jugeaient en dernier ressort les sujets du roi, et en même temps ceux qui enregistraient les lois au nom du roi. Alors ils n'avaient pas de pouvoir législatif, mais ils les enregistraient. Et contrairement à ce qu'on croit, lorsque vous regardez, vous lisez toute une étude de la monarchie d'Ancien Régime, eh bien disons que c'était l'équivalent de nos amendements modernes, l'équivalent de nos députés qui n'avaient pas de représentation souveraine et électorale, mais qui était l'élite du royaume. Il y avait 13 parlements avec un parlement de Paris très important. Et donc j'ai travaillé sur le discours de ces parlementaires de Pau en particulier, mais de Paris et d'autres provinces. Je suis devenu un spécialiste, comme on dit, de ces questions parlementaires. Donc c'est important de le dire parce que, en fait, moi je ne suis pas un historien de la Révolution française. Et je suis venu à la pré-révolution ou à la révolution s'approchant, vous voyez, à petits pas, par en fait ce qui est l'essentiel en histoire, c'est non pas ce qui va se passer après, mais ce qui s'est passé avant. Hein, c'est-à-dire ce qui, d'une certaine manière, se lit à travers quoi ? Bien à travers une campagne électorale qui a eu lieu du mois d'août 1788 au mois d'avril-mai même 1789, c'est-à-dire bien après même le 5 mai 1789, pour vous donner quelques repères, le moment d'ouverture des États généraux à Versailles. Et donc, il y a eu, je vais vous l'expliquer dans quelles conditions, il y a eu des milliers, des centaines plutôt de brochures qui se distinguent, et ce sera le dernier mot de ce tout petit préambule, des cahiers de doléances, parce que les cahiers de doléances, il faut les voir comme étant ces textes qui pouvaient être soit du tiers-état, soit du clergé, soit de la noblesse, soit des trois ordres réunis, et que le député de son bailliage ou de sa sénéchaussée arrivait avec ça sous le bras, Pierre Roubert, hein, vous savez, a été un des grands premiers, les Français ont la parole, on autopsie les Français, mais attention, j'en dirai un petit mot, dans leur extrême diversité. Contrairement à ce qu'on croit, les cahiers de doléances ont autant d'identité que d'altérité. C'est-à-dire, en fait, ils s'opposent par les provinces, par la sédimentation de plusieurs siècles, dans leurs programmes, dans leurs idées, dans leurs doléances, dans leurs revendications, autant qu'ils se rencontrent sur des critères qui, pour un historien de l'Ancien Régime comme moi, est, je dirais presque, pas méchamment, mais un peu la tarte à la crème, c'est-à-dire ces mots « liberté », ces mots « constitution », et puis aussi cet espoir, enfin, de détruire la féodalité, on va y revenir puisque nous sommes, ce sera le dernier mot et l'introduction de ce que vous avez sous les yeux, une société qui est encore fondée sur les trois ordres de la société. Voilà. Alors c'est pas la société du Moyen-Âge, hein, 1789, c'est une société dans laquelle on se reconnaît par la préséance, on se reconnaît par la possession de terres seigneuriales, d'ailleurs possédé par de très nombreux bourgeois, hein, vous savez, qui sont ennuyés parce que souvent ils ont ce qu'on appelle un franc fief à payer. C'est-à-dire vous êtes bourgeois, vous avez acheté une terre noble et vous payez le franc fief. Hein. C'est comme une trace de votre vilenie. Hein. Alors nous en Béarn, on n'a pas ce problème. Je vous dis, tellement les différences sont grandes, c'est quand on achète une terre noble en Béarn, on est noble. Voyez, et todos nobles, comme on disait. Et ça, ça a bien emmerdé Louis XIV, qui savait pas où on mettre les Béarnais, et les autres d'ailleurs, dans certaines cases. Bon. Pour vous dire qu'en fait, l'Ancien Régime est d'une complexité inouïe. Qu'est-ce que vous avez là sous les yeux? Eh bien, vous avez une estampe qu'on ne vous montre jamais, parce que c'est une... Et madame la présidente me l'a dit, parce qu'elle avait travaillé sur les cahiers de doléances, etc., et puis que mon titre du livre l'avait frappé. Eh bien, bon, on a une certaine concorde, vous avez les trompettes de la renommée, au-dessus de, ben, ici, on le reconnaît tout de suite, un membre du tiers-état, évidemment, qui c'est lui qui conduit cette calèche, avec le membre du clergé et le membre de la noblesse, qui ont une certaine prestance. Et il y a écrit « Départ des trois ordres pour Versailles ». Donc là, on est dans la concorde d'un monde qui, de toute façon, est un monde ternaire, mais que nous avons vu, nous, tellement dans l'historiographie de la Révolution française, comme étant celui qui aboutissait à la démolition brutale de la société d'ordre, qu'on a toujours eu l'impression que, finalement, la messe était dite avant la réunion des États généraux. Alors, c'est faux, et c'est ce qui est passionnant pour l'historien que je suis, d'approcher les questions fondamentales, pourquoi le roi a convoqué les États, dans quelles conditions, etc., c'est tout ce qu'on va essayer d'expliquer ensemble dans la problématique qui va suivre. Mais cette estampe, vous voyez, montre, en fait, il faut le voir comme ça, une allégorie des Français qui vont auprès du roi mettre tout ce qu'ils ont dans leur âme, dans leur idée, ils sont dans un siècle le plus éclairé qui fut, parce qu'il ne faut pas oublier que le siècle des Lumières, c'est pas un siècle de la Révolution française, on va voir ça ensemble, c'est un siècle que vit toute l'Europe, hein, avec quand même, nous sommes bien placés, enfin, nous avons les plus grands auteurs, que ce soit les D'Alembert, que ce soit les Lamettri, que ce soit les Voltaire, les Diderot, enfin bon bref, de ce point de vue-là, on est quand même assez gâtés. Alors aller chercher le despotisme et l'absolutisme dans tout ça, enfin, on va se poser la question, parce que moi je suis historien de l'Ancien Régime, je peux vous dire que sous la monarchie, non pas, la question n'est pas qu'on vivait mieux que sous la Révolution, quoi qu'on pourrait dire certaines choses à ce propos, c'est pas ça, mais qu'on est dans un siècle brillantissime. Bon. Et ces gens-là, un peu comme nous parfois, qui espérons que tout va se résoudre en se réunissant, d'où, et on pourrait en dire beaucoup de choses, le mot « états généraux » qui sort régulièrement dans notre vie politique, il y a des états généraux pour tout, hein, mais et là aussi, c'est pour ça que les Français sont très attachés à ce terme. Alors, je vais essayer d'expliquer l'avant, hein, parce que je ne vais pas aller au-delà. Bon, je conclurai. Moi, mon rôle, ce n'est pas de vous raconter l'histoire de la Révolution française, c'est de vous donner certaines clés, et surtout certaines clés plutôt avec un paradigme qui doit trancher aujourd'hui, j'estime, et c'est l'objet, je vous en parlerai, de la pièce de théâtre et puis d'un petit essai que j'ai mis à la fin, Les Français, 1789, d'en finir avec... une histoire où, avec les mêmes sources, on vous pond deux histoires différentes. Voilà. La question, je pense, qui va perdurer tout au long de cette conférence, c'est qui sommes-nous, nous, Français, d'où venons-nous, et comment la démocratie française s'est construite. Et je suis sûr que vous allez y voir même si vous avez des points de vue politiques extrêmement différents, vous allez y voir des choses très familières avec ce que nous sommes au plus profond de notre peuple au sens le plus culturel, ce qu'on appelle la culture politique. Alors, j'étais venu pour la Commune de Paris, je ne suis pas un spécialiste de la Commune de Paris, mais parce que j'avais créé, là je le dis en deux mots, mais j'avais créé une maison d'édition co-créée avec Fabienne Coudin, qui est archéologue, qui est historienne et donc archéologue. On avait créé une série d'ouvrages qui continuent, et c'est entré dans le cadre de ce qu'on appelle les itinéraires historiques. Pour ceux qui avaient assisté à la Commune ou qui avaient acheté de mes livres, ils s'en souviennent peut-être. Ces ouvrages, dont vous avez ici les deux, m'ont donné l'idée. En fait, ces ouvrages sont des ouvrages qui sont des livres d'histoire scientifique, au sens le plus sérieux et qui vous vend pas du rêve ou de la légende ou du mythe, mais qui, en fait, vous fait cheminer tout au long de l'intrigue dans les lieux de cette intrigue. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un lieu, on ne va pas l'étudier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a vécu pendant toute sa vie, on est dans l'intrigue et donc on va sur des lieux. Voilà pourquoi j'ai travaillé dans un domaine que je dépouille beaucoup, c'est-à-dire cette fameuse campagne électorale, et ça a commencé par un premier ouvrage qui s'explique de Versailles, le 5 mai 89, à Versailles, c'est-à-dire quand le peuple, les femmes et le peuple de Paris va chercher le roi et la reine pour les ramener à Paris, à Versailles, les 5 et 6 octobre, d'où le titre de Versailles à Versailles. Et dans ce gros ouvrage, il y a toute la première partie qui est consacrée à un travail de fourmi qui consiste à repérer là où beaucoup de députés ont logé, à l'adresse même, et vous cheminez dans Versailles. Donc vous êtes dans l'intrigue, vous êtes dans la topographie, vous êtes avec les députés et vous êtes aussi avec leurs idées aussi différentes les unes que les autres. C'était l'objectif qui est la même ligne directrice que les autres ouvrages. Puis ensuite, le deuxième, beaucoup plus classique, puisqu'on commence à Meudon, avec cette vue que certains connaissent au château de Meudon, avec toute cette vue sur Paris, au moment où meurt le dauphin. Et puis ensuite, on court jusqu'à la... On traverse les barrières de Paris, etc. Les livres sont tous faits de cette manière-là. Il y a une partie grisée, qui est la partie du voyageur. Ici, vous voyez, vous êtes dans la situation contemporaine d'aujourd'hui, et la densité, alors les livres sont de plus en plus denses, et surtout dans ce domaine-là, il y a du vocabulaire, il y a des explications, et ça, c'est le livre d'histoire. Donc, vous lisez le livre dans votre fauteuil, et l'objectif, c'est que ça doit vous donner envie d'y aller. Mais c'est des livres qui peuvent se lire comme un livre de salon, et en même temps, ça continue, il faut que je rappuie dessus, je suppose, voilà. Et en même temps, vous pouvez y aller. Pourquoi ? Parce que vous avez un plan à chaque fois. C'est-à-dire, en fait, vous avez des chapitres qui sont des étapes, d'une certaine manière. Alors, le gros travail des ouvrages, on a quelques projets, mais qui demandent du temps, c'est de plier l'itinéraire à l'intrigue sans passer au même endroit. Alors, ce que j'avais fait pour la Commune de Paris, qui vous propose une balade de presque plus de 2 jours, disons. Vous pouvez prendre des chemins de traverse, mais plus de 2 jours où vous allez traîner, et puis lire, et puis peut-être aller vous-même à certains endroits différents. Alors, la question qu'on va se poser en introduction, c'est une question qu'on ne se pose jamais, puisqu'il y a la Révolution, donc avant, ce qui s'est passé avant, on s'en fout, finalement. Mais c'est quoi la contestation en 1789? Et ça fait partie de mes ressorts. Moi, je suis historien de l'Ancien Régime. On va voir ensemble qu'en France, on conteste sur tout et tout le temps. Oui, mais ça marche à tous les coups. C'est comme un comique qui va à Genève. Alors non, c'est différent. S'il va à Genève ou à Bruxelles ou à Paris, peut-être que les gens rient pas. Ça, il paraît que c'est les comiques qui disent ça. Ça marche, ça marche pas. Mais là, je suis persuadé, le français, il a un petit... Voilà. À Bordeaux, ils ont fait pareil. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais peut-être pas pour les raisons que vous croyez. Mais c'est vrai, on conteste pour tout et tout le temps. Donc, c'est intéressant de commencer l'introduction ainsi, dans le cadre, bien sûr, bon, vous le savez sans doute, que Louis XVI... dans une crise financière qui s'approfondit, qui s'aggrave, convoque les États généraux, c'est un peu le béaba, voilà, on réunit les États généraux parce qu'on s'en sort plus et il faut avoir un impôt égalitaire, grosso modo, c'est caricatural, mais c'est ça. Dans une première partie, elle va être très classique, après je vais revenir en arrière, les États généraux, c'est une révolution juridique et une épreuve de force. Ça veut dire c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on réunit les États généraux, le tiers-État va, en quelques semaines, et on va voir dans les quelles conditions, mais ça c'est classique, on le sait, il va réaliser ce qu'on appelle la révolution juridique, c'est-à-dire le 20 juin, le 17 juin, Assemblée nationale, parce qu'il représente 96% de la nation, Et ensuite, le 20 juin, le serment du jeu de pommes, je veux dire le contexte, et puis bon, on va faire céder le roi, et ça y est, c'est la souveraineté nationale qui naît à la démocratie parlementaire. Et puis une épreuve de force, parce qu'en fait, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État d'un peuple qui a toujours représenté 96%. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est à un moment donné une désobéissance au roi. Et pour les historiens, et surtout les juristes d'ailleurs, c'est très compliqué cette histoire. Vous avez entendu, mais est-ce que la France avait une constitution? Les uns disent, mais oui, il y avait les lois fondamentales. Les autres disent, mais non, il n'y en avait pas, comme en Angleterre. Et pardi, en Angleterre, il n'y en a pas. Bon, il y a le Bill of Rights, ce qui n'est pas la même chose. Et il y en a une en Amérique, hein, aux États-Unis, depuis 1787. Donc, c'est une grave question qui se pose, c'est que c'est une épreuve de force. Et on va voir dans quelles conditions, même si je ne vais pas raconter le 20 juin ici, c'est le serment du jeu de pomme, je vous parlerai de la pièce de théâtre qui a été jouée d'ailleurs dans la salle du jeu de pomme et pourquoi. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer que cette situation, elle est due à une période hantée, c'est-à-dire, et une condition qu'on explique rarement, qui sont des conditions exceptionnelles d'une liberté exceptionnelle et d'une liberté d'écrire qui, malgré une monarchie qui c'est l'alliance du trône et de l'autel, faut savoir quand même que la censure, c'est quasiment une passoire, mais enfin, vous savez, c'est les spaghettis, ils passent trois fois, quoi. Et puis la censure, c'est quoi? C'est simplement relire un livre et le corriger pour le publier avec le privilège du roi. Donc autant vous dire que les Français lisent tout, sauf les livres qui passent par la censure. Ils en lisent, mais ils lisent essentiellement tout. On va expliquer pourquoi. C'est une histoire assez compliquée. Et une nécessaire lecture sur le vif contre une lecture après coup. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on vous explique la Révolution française par ceux qui l'ont faite. Ce qui peut paraître logique. Et l'historiographie de la Révolution française a été une historiographie, là aussi c'est logique, républicaine. Républicaine. L'historiographie qui a dominé, c'est l'historiographie qui a installé la République contre la monarchie, éventuel le retour de la monarchie, ou l'Église, au 19e, et même au début du 20e siècle. C'est pour ça que nous avons une action française à l'extrême droite. Enfin, c'est compliqué pour un Anglais de s'y retrouver, hein, je peux vous le dire, en France, de ce point de vue-là. Quoi, être royaliste, ça voudrait dire être d'extrême droite? Posons-nous cette question-là. Ben, c'est parce que nous sommes Français. Donc, en fait, on ne va pas remettre en cause l'histoire. Elle s'est passée comme ça. Mais il est vrai qu'il y a eu une déferlante de brochures qui, aujourd'hui, sont à peine étudiées. Hein, moi, j'en fais travailler des étudiants là-dessus, publier des textes et surtout lire des textes qui sont le nerf, véritablement, de ce que les gens avaient à dire. Avaient à dire qui nous projettent vers ce qui va se produire, mais parfois qui contredisent parce qu'il prévoit des choses qui vont se passer. D'une certaine manière, je vais essayer de montrer que la population, même à travers les ordres, a bien des choses à se dire en commun plutôt que à s'opposer. Voilà. Parce que souvent, on a transposé les querelles normales, hein, de la Révolution dans les querelles du passé, ce qui n'est pas complètement, vraiment loin d'être le cas. Et puis ensuite, alors à qui la faute? Si c'est pas à qui la faute, finalement, ça peut être maladroit, ça peut être même mal pris. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que je suis contre-révolutionnaire. Hein, pourquoi il y a eu à qui la faute? Hein, c'est la faute à Voltaire, hein, comme dira Victor Hugo. Mais à un roi trop libéral et réformateur ou à une histoire comptable de tous les siècles? Alors, vous savez très bien, ça c'est un truchement d'historiens, les deux, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, c'est non pas vous expliquer que Louis XVI était libéral et que, comme avant, on fait l'histoire de la Révolution en disant « ça n'aurait pas dû arriver », vous savez, on ne fait pas une histoire de regret, mais on explique tout simplement que la Révolution française, si elle s'est produite comme elle s'est produite, elle est comptable de tous les siècles, d'une longue histoire, et elle est comptable aussi d'un roi, alors qu'on va appeler, j'aurais pu mettre des guillemets, mais libéral, c'est-à-dire un roi réformateur. Un roi qui n'a jamais autant réformé par rapport à Louis XV, en particulier, un roi qui n'est pas si bête qu'on l'a dit, qui n'est pas un génie non plus, mais qui est entouré des plus grands ministres que le royaume pouvait porter, même Louis XV d'ailleurs, avec son côté, bon, mon règne, bon, voilà, il m'intéresse pas trop, gouverner m'intéresse pas trop, il a quand même eu un des plus grands ministres en la personne de Choiseul, qui était quand même la créature de la Pompadour, mais bon, à l'époque, on ne pouvait pas être ministre si on n'était pas la créature d'eux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien assimiler, aujourd'hui de la même manière, mais j'en sais beaucoup moins. Ah, nous en savons beaucoup moins. Alors, conclusion, on verra, bon, ma thématique, hein, pourtant je suis historien pur, mais c'est aussi faire de l'anthropologie historique, c'est-à-dire en fait, c'est cheminer à travers une culture politique. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre sur un divan, on se met tous sur un divan, le psychanalyste est derrière. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est français? Qu'est-ce qui fait que, dans toute notre diversité, hein, on est un peuple génial, mais très énervant. Pour les étrangers aussi, on est particulier. Moi, je reste dans ce critère qui nous ramène à notre actualité. Et vous savez, quand j'ai sorti cet ouvrage, là, bon, je vous dis en quelles conditions, le château de Versailles m'a demandé une nouvelle conférence pour le 9 juin, mais j'étais venu en 2019, il n'y avait que pour les gilets jaunes, parce qu'ils avaient bien compris que là, il y avait des choses à comprendre. Bon, mais pas à expliquer, hein, moi je ne suis pas un spécialiste des gilets jaunes. Enfin bon, ça sent le français quand même. Hein. C'est la même odeur. On se posera trois questions, hein, mais rapidement, comment et pourquoi, c'est très important en histoire, parce que il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, hein, pourquoi Chirac a dissous l'Assemblée, hein, bon, s'il avait su ce qui se passait, bon, il ne l'aurait pas fait, hein, vous voyez, c'est complètement, donc c'est pas comme ça qu'il faut se poser la question, c'est comment et pourquoi Louis XVI a-t-il pu convoquer plus de 1000 députés, venus de tout le royaume en les laissant, à Versailles en plus, on va le voir, topographiquement, c'est fondamental, en les laissant s'installer, s'émanciper, discuter, sans soldats aux environs, hein, sans personne, durant plusieurs semaines. Et surtout, imaginer déjà une nouvelle France fondée sur des espérances à perte de vue. Des propositions qui font notre orgueil, qui font notre fierté, et qui vont faire aussi notre tragédie. Parce que la Révolution française, quoi qu'on en dise, c'est une guerre civile. Peu importe la faute à qui, hein, je veux dire, chacun, il y en a qui portent le bonnet phrygien. C'est comme pour la Commune de Paris quand j'étais venu. Et certainement, il y en avait qui étaient de grands réactionnaires, d'autres amoureux de Louise Michel. Vous voyez, on est tous divers. Hein. Il y en a qui portent le bonnet phrygien, il y en a qui sont plutôt aristocrates, plutôt... voilà. Hein. Ah non, la terreur, j'aime pas. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'il faut manger tout le plat. Hein. Et que l'histoire, elle n'est pas comme ça, elle ne peut pas se découper en rondelles, choisir la période qui nous convient. Et puis, comment s'est construite une culture politique dès cette pré-révolution? Alors, j'aime pas trop le terme de pré-révolution, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Aujourd'hui, je préfère pas utiliser cette expression, je le fais de manière technique et rapide, hein, c'est ce qui précède, dont les Français gardent encore un large héritage. Et c'est celui d'une incapacité chronique à affronter les défis. Ah, les défis, enfin, ils affrontent les défis des Français, mais hors la passion et hors l'exclusion. Et ça, c'est caractéristique du Français. Là, alors là, il y a des livres à l'appel, du comique, du sérieux, du scientifique, sur cette étrangeté. C'est une phrase de Philippe d'Iribarne, par exemple, un Bordelais, qui a écrit un livre formidable là-dessus qui s'appelle « L'étrangeté française ». Alors après, c'est selon si vous êtes optimiste ou pessimiste. Vous voyez, c'est un peu comme... Je suis à la psychanalyse, hein, en fait, finalement. Je suis comme ça, alors est-ce que je suis optimiste et je vais de l'avant, ou alors je me flingue, quoi. Vous voyez, concrètement, c'est ça. Ou alors, je me dis que, de toute façon, je ne vais rien donner. Hein. Est-ce que je fais avec ma personne, avec moi-même? Et au niveau de notre peuple, c'est un peu comme ça. On parle de schizophrénie aussi. Hein. Vous l'avez entendu, ce terme. Schizophrénie française. Mais pourtant, bon voilà, alors, je ne suis pas un spécialiste, mais apparemment, ça ne se soigne pas. Voilà. Et puis enfin, pourquoi sommes-nous comptables encore de nos jours d'une croyance qui a depuis 89 orienté et organisé toute notre représentation politique? Alors les Anglais, ils ont la Magna Carta de 1215, mais elle est plus paisible, elle est plus calme, hein, c'est la Magna Carta, bon, ça, à partir de là... Voilà, ok, on y va. Nous, c'est 89, mais alors 89, on sait quand ça commence, hein, mais par contre, on ne sait pas quand ça finit. Pour ceux qui ont lu François Furet, je veux dire, bon, voilà, donc on ne sait pas, on ne sait pas. Et on ne va pas chercher à le savoir là aujourd'hui. Alors, quelle contestation? Je vous ai dit que les Français contestent tous et tout le temps. Alors, ce n'est pas pour caricaturer et vous dire ce que vous vous dites en soupirant, je vous ai un peu entendu, finalement, c'est comme aujourd'hui. Nous sommes des râleurs, nous sommes jamais contents, etc. Non, c'est plus sérieusement. On va comparer avec l'Angleterre. Avant 1789 en France, il n'y a pas, on va prendre l'exemple de l'impôt, il n'y a pas de discipline républicaine de l'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impôt n'est pas voté par un parlement souverain né des suffrages. C'est comme ça. On ne va pas changer l'histoire. Hein. La France, ce n'est pas l'Angleterre, l'Angleterre, ce n'est pas la France. Sauf que la France est un pays qui va de l'avant, un grand pays, un grand royaume, où on paie moins d'impôts qu'en Angleterre, mais où tout est sédimenté à une représentation du monde avec ce qu'on appelle des privilèges. Et ces privilèges ne sont pas uniquement des privilèges particuliers, Le clergé, bien sûr, n'en paie pas, il paie le don gratuit tous les 5 ans. Hein, pour ceux qui connaissent, tous les 5 ans, c'est un peu comme... Ben, nous, les Béarnais, on est abonnés. Quand vous avez un abonnement téléphonique depuis 20 ans, surtout ne le lâchez pas. Ben, c'est pareil. Les Béarnais sont un pays abonné. Et le pays abonné, de temps en temps, il accorde une augmentation. Et le clergé, c'est pareil, tous les 5 ans. Et quand il y a la guerre... voilà. Pourquoi? Parce que l'impôt du roi ne vient que d'une chose. C'est Charles VII qui l'a... Ce raccourci qu'il a quasiment inventé pendant la guerre de santé, de 100 ans, partout santé, de 100 ans, c'est pour la guerre. Sinon, les Français, ils paient la dîme pour le clergé et ils paient le jambard et tout ce qui dépend des seigneuries et des seigneurs. Et en Angleterre, c'est pas pareil. En Angleterre, il y a une discipline républicaine de l'impôt, c'est-à-dire que c'est le Parlement, donc c'est l'élite qui vote les lois. Ce sont les propriétaires, les marchands, ceux qui sont élus, pas de manière encore démocratique vers les basses classes de la société, mais quand même, depuis le Bill of Rights, et depuis longtemps déjà, le Parlement est partie prenante. Vous savez, c'est ce qui a occasionné la Révolution d'Angleterre. Ben, vous avez là un ressort de ce qu'on appelle la contestation, ou c'est Jean-Nicolas qui a parlé de rébellion française. Hein, il a écrit un magnifique livre, un pavé sur la rébellion française. La rébellion française, c'est pas uniquement les gens qui ont faim et qui attaquent un boulanger, ou celui qui va livrer le grain dans une autre province alors qu'on en manque. Non, c'est en fait une contestation d'un ordre qui est en train de changer depuis plusieurs siècles, où le roi se permet des, quand il peut le faire, hein, il se permet des raccourcis, supprimer les états provinciaux d'un côté, rogner les privilèges des autres. Si je voulais vous faire comprendre très vite, imaginons aujourd'hui un président, un premier ministre, bon, imaginons un président qui se retrousse les manches et qui dit « bon, maintenant on va couper des têtes, on va supprimer tous les privilèges » qui ne sont pas justifiés par rapport à l'égalité, etc. On commence déjà à en parler, regardez, pour les retraites, la pénibilité, l'âge de la retraite, etc. Donc c'est à peu près l'équivalent dans notre société démocratique. Et donc, si vous voulez, jusqu'en 89, on va en donner des exemples, les lois, comment dire, le roi ne peut rien imposer, il ne peut rien imposer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas inventer la loi. Donc c'est pas un despote. Il a des ministres, il a des gens qui réfléchissent et qui cherchent quoi? Une économie de plus en plus libérale, éclairée, hein, les théories d'Adam Smith, les physiocrates, etc. Un impôt bah, qui rentre, mais qui permette de ne pas être étranglé par les fameux traitants, vous savez, les fermiers généraux. Vous savez, ces fermiers généraux qui répondent à des appels d'offres du roi pour que le roi ait de l'argent frais, puis qui ensuite se servent sur le peuple. Hein, comme Lavoisier. C'est pour ça que les fermiers généraux sont très impopulaires en 1789. Et donc, il n'y a pas de banque. C'est-à-dire qu'en fait, le roi, il est étranglé. C'est 50% du budget, c'est pour payer l'intérêt de la dette. Imaginez. Bon. Donc, en effet, il y a un nœud gordien. Mais ce nœud gordien, Louis XIV a déjà commencé à le desserrer. Les nobles paient un impôt qui s'appelle la capitation depuis 1695. Alors, on ne le dit pas. Pourquoi? Ben parce que cet impôt, il n'y a pas de cadastre, parce qu'en fait, le grand sport, c'est d'éviter l'impôt. Ça aussi, bon. Et donc, si vous voulez, à la fin du XVIIIe siècle, on avance malgré tout vers des impôts qui s'appellent le 10e, le 20e, et qui tendent à être permanents, alors que pour les Français, l'impôt du roi ne doit pas être permanent. C'est un impôt dit extraordinaire. Extraordinaire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut? Au fur et à mesure où la société quand même évolue, elle est plus intelligente, elle est plus cultivée, les gens lisent, etc., hein, on écrit, eh bien, c'est que tout le monde participe à l'effort commun. Bon. Donc, il existait l'impôt. C'était le 20e à l'époque. C'est ce qu'on appelle le 20e. Donc, on les négocie. Et on les négocie avec qui? Avec les magistrats, qui sont ces juges, qui sont possesseurs de leurs charges et qui sont gardiens des lois depuis des siècles. Et avec qui, en fait, s'organise la vie politique. Et ces gens-là, quand même l'expliquer en histoire, disparaissent en quelques semaines, à la fois sur le plan de l'honneur et sur le plan de leur existence. Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien expliquer, ça tombe brutalement. Alors ça tombe brutalement, pourquoi? Eh bien parce que tout le monde, et là il y a un loup en politique, hein, c'est que tout le monde veut les états généraux, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que les états généraux c'est un vieux machin. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Mais la contestation elle est partout. Alors, des exemples. Regardez, parce que ce bonhomme-là, il a quand même un destin extraordinaire dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais il est contrôleur général des finances. C'est-à-dire, c'est le premier ministre du début des années 80. Et ce Charles-Alexandre Calonne, contrôleur général des finances, alors j'ai un peu inversé ici, voilà ce qu'il dit. Pour la première fois, il propose un plan au roi de réforme totale de l'administration, ce qu'on appelle une réforme par le haut. Et en fait, la France est une France née des sédimentations depuis plusieurs siècles. En fait, c'est pas un puzzle, la France, hein. La France, c'est pas un puzzle. Un puzzle, vous avez 1000 pièces, si vous manque une pièce, c'est foutu. Vous pouvez pas finir le puzzle. Non, la France s'est construite, voilà, par des provinces très différentes les unes des autres. Pays d'État, pays d'élection, pays de gabelle, de petites gabelles, de grandes gabelles. Enfin, bon, bref. Pour être étudiant en histoire moderne, il faut avoir du courage, hein, pour travailler dans ce domaine-là. On ne peut faire un pas dans ce vaste royaume sans y trouver des lois différentes, des usages contraires, des privilèges, des exemptions. Et cette dissonance générale complique l'administration, interrompt son cours, embarrasse ses ressorts et multiplie par tous les frais et désordres. C'est un truc qu'on pourrait passer aujourd'hui, hein, bien sûr, à réaménager. Donc l'idée, et ça c'est ce que pensent tous les ministres, et lui il est français, parce que Necker il est suisse, on va voir, mais ils pensent tous la même chose. Le gros problème, c'est pas de constater. C'est le même qu'aujourd'hui. C'est de savoir comment on va faire avec les gens, c'est-à-dire l'opinion qui compte. Et Calonne ose convoquer une assemblée des notables, qui réunit d'ailleurs au même endroit, on va le voir, que dans la salle des menus plaisirs, d'où le titre la pièce de théâtre, c'est-à-dire à côté de Versailles, où on va réunir 144 notables issus des trois ordres, avec 7 bureaux, dont Lafayette, par exemple, ou les princes du sang, qui vont discuter sur, notamment, autour d'eux, une subvention territoriale qui était, ça fait longtemps que c'était dans les bacs, comme on dit aujourd'hui, un impôt égalitaire pour tous, selon les revenus. Bon, ok. Cette question qui était négociée et dont les magistrats se méfiaient beaucoup. Et finalement, en 87, Calonne va échouer parce qu'on va l'accuser de vouloir manipuler les notables et de passer au-dessus des notables et de s'adresser au peuple, c'est-à-dire vous, en disant des choses que Necker avait déjà dit. Vous comprenez, moi je veux faire des efforts, mais enfin il faut comprendre, les grands nobles à Versailles touchent des pensions qu'il faudrait diminuer. Ça, c'est une vieille ficelle politique. Hein ? C'est comme quand on nous dit que les ministres sont trop payés, etc. C'est pour pas nous parler d'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces ministres sont d'accord. Le problème, c'est comment on fait. Et dès qu'on a réuni l'Assemblée des notables, la presse qui existe à l'époque, hein, je pense qu'il y a les mémoires secrets de Bachaumont, disent, ça y est, on a convoqué la nation. Pour les journalistes de l'époque, les publicistes, c'est déjà la nation. Et qu'est-ce qui sort de cette assemblée des notables, notamment Lafayette parmi d'autres? Ils disent oh non, les seuls à pouvoir consentir l'impôt, ce sont les États généraux. Sauf que les États généraux, comme on le sait tous dans nos leçons, n'ont pas été réunis depuis 1614. Bon. Et que, je vous la fais courte, tous les rois, tous les ministres, le duc de Saint-Simon en premier, etc., et il faut quand même dire un mot, les États généraux ne veulent pas, n'ont jamais voulu convoquer les États généraux. Et de plus en plus d'ailleurs. Pourquoi ? Ben parce que la vie évoluant, on se demande, on n'a pas envie d'entendre ce qu'on va entendre. Et on n'a pas envie de risquer. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est tout un travail de l'historien de l'expliquer. Les États généraux, c'est deux choses. C'est d'abord, depuis 1302, depuis Philippe le Bel, c'est d'abord une grande opération de com' de la monarchie. Voilà, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que les États généraux, c'est l'occasion pour le roi de France, d'évoluer et de montrer à son peuple qu'il écoute. Et qu'il les écoute. Et qu'il les écoute par qui ? Ben par les membres du clergé, de la noblesse, et de ce qu'on va appeler le tiers-état. Sauf que c'est une deuxième chose aussi, dans les temps de crise, guerre civile, d'abord Étienne Marcel, hein, guerre de Cent Ans, et puis pendant les crises de religion, le monarque est acculé, hein, vous voyez, il est acculé face à un peuple et des représentants pour discuter l'impôt, éventuellement discuter de la loi. Et il y a des états généraux qui ont beaucoup inspiré la monarchie, en passant, ce sont ceux de 1576, par exemple, hein, sous Henri III. Ils ont beaucoup inspiré une grosse législation. Vous savez, c'est souvent les rois dont on parle en mal qui n'ont pas été si mauvais que cela, Henri III en particulier. Bon. Et donc, ça, c'est important de savoir ça, parce que, en fait, nous sommes à la fin, enfin, au siècle des Lumières, on a beaucoup discuté, etc., mais les États généraux, on n'a jamais voulu, surtout, c'est prendre un risque énorme, parce qu'on ne sait pas vers où on va. Et en fait, il y a un loup en politique que quand tout le monde est d'accord pour faire la même chose, alors que les opinions sont complètement différentes. Et que même ceux qui sont d'accord à peu près, je pense aux membres du tiers-État, n'ont pas la même idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Louis XVI va les convoquer, mais sans une seule once d'idée d'abandonner sa souveraineté. C'est-à-dire le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Une seule idée. Donc, s'il s'est passé quelque chose. Donc, il a été disgracié. Regardez déjà, hein, la presse s'en donne à cœur joie. On n'en a pas beaucoup, des estampes comme ça. Mais vous avez Calonne qui est en singe et qui dit, mes chers administrés, je vous ai rassemblés pour savoir à quelle sauce vous voulez être mangés. Réponse, nous ne voulons pas être mangés du tout. Mais vous sortez de la question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas nier la question d'une société encore féodale, des trois ordres, etc. De toute façon, pas quand même compliqué de se dire que de toute façon ça aurait évolué tout cela. La question c'est qu'à un moment donné les choses elles pètent, elles éclatent. Bon, et en France c'est sûr que la Révolution française elle a eu des raisons d'être. Parce que je vous dis ça remonte à loin. Donc voilà, on en parlait. Il a été disgracié, je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors qu'est-ce que fait Louis XVI? Eh bien en 87, comme tout le monde demande des États généraux et les magistrats du Parlement aussi, eh bien il continue à négocier. Alors il négocie l'impôt. Et il a, vous savez, vous avez tout ça dans vos manuels, la fameuse dernière phrase de la monarchie, hein, vous savez, c'était Louis XIV, l'État c'est moi, et tout ça, ou alors je suis la nation, je suis la loi, disait Louis XV, au discours de la flagellation en 1766. Il dit c'est légal, alors, c'est quoi la scène? Son cousin, prince du sang, c'est-à-dire dans la lignée des héritiers présomptifs du trône, une des plus grandes richesses de France, un démago fini, quelqu'un politiquement qui a jamais été bon, mais enfin peu importe, c'est un jugement de valeur, c'est le futur Philippe Égalité, hein, mais qui lui dit quoi? Il lui dit, mais au départ, il lui a dit, mais c'est une séance royale, cette négociation, parce que vous nous obligez à enregistrer l'édit sur le 20e, sur le second 20e, c'est un impôt. Il dit, c'est un lit de justice ou c'est une séance royale? Alors, vous savez pourquoi on l'a appelé séance royale? Parce que lit de justice, en 1787, tout le 18e, on a usé des lits de justice. Alors, pour vous aider à comparer, un lit de justice, au Moyen-Âge, c'est le roi qui explique la loi. Alors, il est sous un dé, c'est pour ça le lit de justice, et il explique la loi. Mais au 18e, c'était devenu un coup de force. Disons, c'est le 49-3. Voilà, c'est soit on discute, soit, vous voyez, pour vous aider un peu à voir les choses. Et quand il lui dit, c'est une séance royale, c'est une agression, finalement. C'est vous, sire, qui vous imposez. Et il lui répond ça. C'est légal parce que je le veux. Oui, mais dans d'autres sources, et moi j'ai un étudiant en thèse, j'ai une spécialiste amie, Isabelle Brancourt, spécialiste des parlements, je lui ai posé la question, parce qu'il y a les juristes qui se battent là-dessus. Mais non, mais dans d'autres sources, il répond ça. Alors c'est quasiment la même chose, ça. Mais pourtant, c'est légal parce que j'ai entendu tous les avis. C'est comme ça qu'il faut imaginer la monarchie. Parce que sinon, le roi... Attendez, si c'est le roi, si le despote, il se réveille le matin... Enfin, je caricature, bien sûr. Il se réveille le matin, il dit, écoutez, on va vous organiser les états généraux de telle et de telle manière. On va tout verrouiller. Ben non, ça, c'est pas fait. Il y avait une explication. C'est qu'il n'y avait pas une constitution comme nous avons aujourd'hui. Mais il y avait les lois fondamentales. Et puis, il y avait un dialogue, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'en fait, le roi n'impose rien. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, il a été noirci, c'est normal, les révolutionnaires n'allaient pas dire « Louis XVI était magnifique !» Vous voyez, non, on va noircir la monarchie. Mais c'est logique. Et quand on est historien comme moi de l'Ancien Régime, c'est pour ça que je plaide pour ma paroisse, on voit mieux la Révolution que quand on la regarde dans le rétroviseur, et non pas devant, parce que la route, on ne sait pas, le prochain virage, on ne sait pas si on se le prend ou pas. Tandis que moi, je sais d'où je viens. Et d'où je viens, c'est ça. J'ai entendu tous les avis. Et c'est comme ça en permanence sous la monarchie. Et les magistrats, ce sont des résistants. Alors vous allez me dire, oui, mais des résistants, mais ils ne représentaient pas le peuple. Bien sûr qu'ils ne représentent pas le peuple, il n'y a pas d'élection. Mais ils représentent les provinces. Ils représentent l'élite du royaume. Mais bien sûr, derrière eux, il y a des gens, notamment de la bourgeoisie, qui veulent gagner du terrain politique. Moi, je suis un spécialiste des parlementaires. Il n'y a rien de mieux que d'étudier les gens qui défendent leur bistec. Mais des gens qui défendent leur bistec, ils ne disent pas que des conneries non plus. C'est-à-dire que les parlementaires ont construit la France pendant plusieurs siècles. Et on est plusieurs spécialistes, français, américains, anglais, sur les parlements, qui réévaluent le rôle des parlements. Mais pas pour dire la révolution n'aurait pas dû arriver. Dire simplement que De toute façon, on voyait bien comment ça allait se goupiller, mais après eux, le déluge. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui s'est produit. Mais sans le regretter. Hein. Pas du tout. Mon objectif, c'est pas du tout ça. Alors, ce qui s'est produit, c'est que le cousin d'Orléans a été en prison dorée. Alors là aussi, quand on va en prison politiquement sous Louis XVI, moi, franchement, je prends. Je vous le dis tout de suite. Hein. Le dernier emprisonné, c'est Duval des Préménils, sur lequel je travaille. C'est un conseiller du Parlement de Paris. Il est aux îles Sainte-Marguerite pendant 3 mois de l'été 88. Il en profite pour refaire les jardins, pour refaire les plans de la forteresse. Sa femme vient le voir. C'est comme la Bastille aussi. Hein. Il y a bibliothèque, bureau, balade sur les tours. Le marquis de Sade y est jusqu'au 4 juillet. Alors lui, par contre, il n'a pas été emprisonné pour des raisons politiques. Hein. Il faudrait pas le... Et c'est comme Mirabeau aussi au donjon de Vincennes. Hein. Je suis désolé. Mirabeau n'a pas été emprisonné pour des raisons héroïques. Par contre, ça ne l'a pas empêché d'écrire l'essai sur le despotisme. Vous voyez, c'est tout ce contraste-là qui fait que quand vous ouvrirez un ouvrage de Quetel sur la Bastille, vous tomberez des nues. C'est-à-dire que la Bastille, c'est une prison de luxe, 3 étoiles. D'ailleurs, elle ne sert plus à rien, elle coûte très cher aussi. C'est pour ça qu'il n'y a que 7 prisonniers. Alors, ce n'est pas la remise en cause du 14 juillet, etc. C'est simplement remettre les choses à leur place. Et voilà pourquoi il repart le roi, dans ce qui est considéré par les Français et les magistrats comme des coups de force. C'est-à-dire, on enregistre de force les édits. Des édits qui sont en général, vous savez, là c'est pareil, on va sourire, mais ce sont souvent les bonnes lois qui sont les plus contestées. Alors, qu'est-ce que j'appelle les bonnes lois? Je ne suis pas spécialiste de tout, mais vous savez, c'est la bonne loi qui, on sait très bien, regarde vers l'avenir, vous voyez, mais bon, c'est pas celle qu'on a envie, et puis souvent, combien de fois les gens qui manifestent ne sont pas d'accord entre eux? Tiens, ils sont sûrs, c'est qu'ils sont d'accord pour gueuler. Ils sont peut-être pas d'accord pour tout, mais ils sont d'accord pour gueuler. Et de la même manière, à l'époque, il y a eu Maupeou en 1770, et bien il y a la journée des Tuiles de Grenoble. C'est quoi la journée des Tuiles? Il y en a une à Pau, il y a une à Rennes, vous savez, c'est de là d'où est partie la Révolution française. C'est le peuple qui demande la réintégration des magistrats, qui étaient les pères de la nation, qui a enregistré les lois, et il n'y avait pas de parlement anglais, et qui pousse le roi à les réintégrer d'ailleurs. Et en fait, ce que va faire le roi, il va tout faire en même temps. Il va réintégrer les magistrats, abandonner toutes ces réformes et convoquer les états généraux. Alors en politique, on appelle ça... Hein? Non. Voilà, on appelle ça... Alors c'est soit la reculade, soit... On ne sait pas, mais c'est ça. Et en fait, il va se jeter à corps perdu dans ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire convoquer les états généraux. Alors grâce à un personnage qu'on retrouvera, j'en dirai un petit mot, mais c'est Jean-Joseph Mounier, hein, qui est le grand révolutionnaire du Dauphiné, qui, vous voyez, dans une salle du jeu de pommes, dans le musée actuel du jeu de pommes, eh bien, va annoncer notamment le retour des états du Dauphiné et la demande des états généraux. Voilà, j'en ai dit un mot déjà, je passe un peu vite. 60 000 cahiers de doléances avec les élections qui vont être organisées. Les députés arrivent avec sous le bras leur cahier de sénéchaussée ou de bailliage avec, un point de vue important, la divergence des points de vue et des visions de monde ou des renoncements nécessairement frustrants. C'est-à-dire que les cahiers de doléances, c'est une radioscopie de la France d'Ancien Régime, mais c'est en aucun cas une unité de vue. C'est presque tout le contraire. Bon, et encore, on est très loin d'avoir étudié tout cela. Parce qu'il y a deux manières d'étudier les cahiers. Il y a la manière culturelle, hein, la lecture culturelle des cahiers, et puis il y a la lecture technique de notre province à nous, de notre petit bailliage, de notre petite sénéchaussée. Est-ce qu'on faisait de la pomme de terre, pas de la pomme de terre? Est-ce qu'on accepte la conscription, pas la conscription? Tout possible et imaginable. Ces états généraux, je vais rapidement vous présenter le contexte géographique qui m'a poussé aussi à faire un itinéraire, c'est que là, quand vous voyez le château, nous sommes sur la place d'Armes. Alors, j'ai pas multiplié les photos, mais si je me tourne avec le château derrière moi, j'ai en face l'avenue de Paris. Je vais vous montrer un plan. Et l'avenue de Paris, et concrètement, je connais pas bien Sarlat, mais vous avez les députés qui vont se réunir, allez, à 800 mètres. 800 mètres. Le roi est là. Et à 800 mètres, vous allez avoir 1200 députés qui vont venir de tout le royaume et qu'on va laisser palabrer dans des conditions extraordinaires de liberté qui existaient d'une manière générale, parce que oui, il y a des mouchards, il y a une police, mais enfin bon, tout. Enfin, sûr, même les Anglais, quand ils vont à Paris, le palais royal, ils se demandent, Arthur Young, qui est un agronome, il voit le palais royal, vous savez, mais il se dit, mais c'est pas possible, tout ce qui peut s'écrire et se dire là-bas, mais comment on peut permettre ça? un Anglais. Un Anglais qui connaît les libertés, qui assimile la liberté de la presse déjà depuis des années, dont Voltaire nous a vanté les mérites. Bon, il faut quand même comprendre ça. On ne vous arrête pas à tout bout de champ sous l'Ancien Régime. D'ailleurs, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Alors oui, on va aller un peu comme les dealers, quoi. Vous voyez, on va aller chercher le menu frottin, on va aller à la librairie parce qu'à un moment donné, on va aller choper un gars, mais on va le garder trois semaines, un mois. En tout cas, on ne va pas. Voilà. Donc, il y a même un historien, un grand historien moderniste que vous connaissez pour certains, qui s'appelle Robert Muschenbled, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Ripoux des Lumières. Enfin, je veux dire, Les Ripoux des Lumières. Et ce n'est pas, vous voyez, le historien excentrique. C'est le gars de la vieille école. Il est décédé, il me semble, mais il est de la génération des grands, de Pierre Houbert, quoi, un peu après. Donc, attention, quoi. Là, je pourrais vous faire une conférence sur la littérature clandestine de cette époque-là. Alors, voilà, à Versailles, voilà comment ça se passe. Et quand vous êtes sur l'avenue de Paris, je vous montrerai un plan tout à l'heure, je vous l'ai montré, mais au 40, numéro de pour ceux qui connaissent Versailles, vous avez aujourd'hui le conservatoire de musique baroque. Alors vous voyez, vous êtes au bord du boulevard, vous avez cette petite entrée-là, vous avez une grande cour, un bâtiment, un escalier, là, c'est dommage que j'ai pris une photo avec la porte fermée, mais vous verriez un petit escalier, et quand on monte l'escalier, vous voyez qui est là-bas, on se retrouve dans cette petite cour aujourd'hui où les élèves, les professeurs, des petites salles de musique se reposent, etc. Un tout petit jardin. Mais dans ce tout petit jardin, il y a ça. Cette immense salle qui a déjà accueilli l'Assemblée des notables, qui a été décorée pour les fastes de l'histoire de la monarchie, etc. Peu importe. Mais ces deux lieux sont les mêmes. Là-dedans, il y a 1200 députés, plus de 3000 spectateurs. Sans latrine. C'est le fameux docteur Guillotin qui va s'intéresser au mois de juin, il faudrait peut-être voir les commodités, vous voyez. Bon. Sur l'étouffe, on suit une... Bon, bref, mais on est là. C'est pour ça que ça ne se visite pas à Versailles. Alors moi, je suis allé avec mes étudiants. On a toqué, puis on a un peu regardé, parce qu'on expliquait ce qui se passait. Voilà là où les députés vont se réunir. Et, pour vous dire ce qu'il faut retenir pour après... Comme de toute façon les députés, on va expliquer pourquoi, du tiers d'État sont deux fois plus nombreux, on prend la décision le 27 décembre, soit vous savez tout ça, hein, dans le manuel on l'explique toujours, parce que le vote par tête, on ne prend pas de décision, vous savez, on sait pourquoi, et tout est là, on double le député du tiers, donc vous avez 600 députés du tiers, et comme ils sont trop nombreux, les députés du tiers, ils ont droit à ça, à l'aise. Dès le 5 mai, dès le 6 mai, ils se réunissent là-dedans. Les membres du clergé de la noblesse, ils sont là, dans des petites salles, enfin dans une salle qui correspond à 300 députés, hein, mais qui n'est pas la grande salle plénière. Ça, on ne le dit jamais dans l'historique, parce que ça a beaucoup de sens pour la suite. C'est que les députés, pendant 6 semaines, les membres du tiers-état, les Mirabeau, les Sieyès, ils sont chez eux. Vous voyez, comme on dirait aujourd'hui, on est chez nous, hein, mais ils sont là chez eux. Sauf que c'est l'endroit où le roi va faire son discours. Alors, justement, le 5 mai, il est midi, je passe sur, vous savez, pourquoi je dis il est midi? Parce qu'on les a convoqués à 9h. Alors, évidemment, il y a beaucoup de députés, ils ont pris une gueule infernale, et quand ils écrivent des brochures, etc., c'est Adrien Duquesnoy, que je vais passer très vite, Adrien Duquesnoy, qui écrit un journal, il est de Nancy, il écrit un journal, il l'envoie à tous ses amis, tous les jours, il envoie un rapport, et il dit, on fait pas attendre le peuple. Ça marche bien après la Révolution, on ne fait pas attendre le peuple pendant 3 heures. Voilà. Ben, ce qui est normal. Le roi, c'est le roi, à l'époque. Mais c'est normal aussi de réagir. Moi, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que finalement, le roi a attendu, et depuis longtemps, le coup pour se le faire couper avant l'heure. Mais parce que, d'une certaine manière, c'est le monde de l'Ancien Régime. Il n'a pas prévu, ça. Donc, en effet, il est midi. Alors, il fait un discours. Alors, vous voyez, j'ai quelques feuilles ici, je ne vais pas vous abreuver de parole, c'est pour ça que j'ai pris ces textes-là, parce que je suis timé aussi, hein, il faut que je fasse attention au temps. Bon, son discours, il est creux, il est convenu, comme un discours d'un homme politique, d'un président de la République aujourd'hui, c'est la même chose. « Messieurs, ce jour que mon cœur attendait depuis longtemps est enfin arrivé, et je me vois entouré des représentants de la nation à laquelle je me fais gloire de commander. » Attention, il faut le lire aussi entre les lignes. Hein. « Un long intervalle s'était écoulé depuis les dernières tenues des États généraux. » Vous voyez, déjà, tac, paf. Et quoique la convocation de ces assemblées parut être tombée en désuétude, je n'ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut tirer une nouvelle force et qui peut ouvrir la notion à une nouvelle source de bonheur et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ça, c'est le discours le plus protocolaire qui soit. Et puis il dit, je vais laisser la parole à mon directeur général des finances, qui est Jacques Necker. Et Jacques Necker est un, je vous l'ai dit, c'est un Suisse, mais il n'est pas que Suisse. Il est protestant, mais en plus, il est banquier. Et moi, quand je fais des cours sur l'Ancien Régime, je me rappelle quand Macron s'est présenté, ça me fait toujours rire, parce que je vous étais là, je me dis, et puis c'est pas un banquier Macron de la Caisse d'Épargne, quoi. Vous voyez, c'est pas le guichetier, quoi. Non, c'est un banquier. Il a un réseau, c'est quoi, c'est à Rothschild. Oui, voilà. Quand même, ça, je présente mon gendre, il est à Rothschild. Bon, déjà. Hein. Alors, voilà Jacques Necker. Jacques Necker a été contrôleur général des finances jusqu'en 1781. Oh, je passe les détails parce que j'ai pas le temps, mais il a écrit un compte rendu roi. C'est la première fois qu'un ministre fait sa propre com en disant des choses vraies et fausses, d'ailleurs, mais en disant que les nobles ont trop de pensions à la cour, etc. À tout le monde, c'est-à-dire à un public. Le compte rendu de Necker, c'est un succès de librairie. Alors, à l'époque, il n'y a pas de copyright. Hein. Vous avez un livre qui vous plaît, vous le photocopiez. Enfin, on ne le photocopiait pas à l'époque, mais on le réimprime et boum. Donc, il y a pas... je veux dire, c'est un succès dingue. Robert Danton, qui est un Américain qui travaille là-dessus, c'est un des grands succès. Il va être disgracié à cause de ça. Et il revient, c'est pas lui qui a demandé les états généraux. On va revenir en arrière, mais c'est pas lui qui a demandé les états généraux. C'est lui qui doit gérer l'affaire. Et cette affaire est assez complexe. Regardez comment on lui fait sa publicité. Pour la première fois, moi qui suis spécialiste des râleurs de l'Ancien Régime, et surtout des magistrats qui font des remontrances, des contestations, c'est la première fois qu'un ministre est aussi populaire. C'est-à-dire que moi je suis en train de travailler sur un livre en 3 volumes sur littérature et états généraux, alors qui est plutôt d'un caractère universitaire, on va aller directement sur les textes. Concrètement, le paradigme s'inverse. C'est-à-dire, en fait, croyez-moi si vous voulez, disons que si on dit des choses négatives sur Necker, on va pas aller en prison. Mais c'est un peu comme aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire certaines choses. C'est-à-dire, en fait, le paradigme se retourne complètement. Il faut être pro-Necker. D'ailleurs, quand il y a le mot Dieu qui apparaît dans les brochures, c'est souvent pour dire le Dieu Necker. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas y toucher. Et Necker, c'est vraiment, on l'adore. Alors, la vérité, offre la main à Necker, tombe au pied d'un obélisque auquel est fixé le portrait du roi, bon, voilà. Et pendant toutes les années 80, Necker triomphe en ayant été démis de ses fonctions, ce qui est nouveau. Choiseul a failli revenir. Choiseul est le premier ministre, c'est un grand ministre, la mort de la Pompadour, on lui a foutu un coup, pas possible, parce qu'il était créature de la Pompadour, et en 68, en 70, il est démis de ses fonctions, mais il reçoit Chanteloup, vous voyez, c'est un peu, ça commence à être la mode. Avant, en général, soit c'était la décapitation, soit la disparition complète de tous les ministres, mais nous sommes un pays civilisé. Bon, c'est pas la Russie des tsars, quoi, hein, le 18e siècle, quand même, on est en pays, voilà, c'est pour ça que les d'Alembert et consorts, quand Catherine II les invite en Russie, hein, vous savez, c'est le grand mot de d'Alembert, c'est le grand mot de d'Alembert qui dit « Non, je crains trop pour mes hémorroïdes », en sachant que c'est Catherine II qui a assassiné son mari en prétextant une crise d'hémorroïdes. Bon, bref, c'est l'idée, quoi, ces gens-là, ces intellectuels. Et Jacques Necker, il fait un discours, donc avant de vous montrer cette image, parce qu'on va résumer rapidement, c'est important, parce que Jacques Necker, en fait, il fait un discours de plus de 3 heures. Plombant, enfin, l'équivalent, c'est Macron avant les élections. Vous savez, c'est imbuvable, c'est pas un discours à la Mélenchon, vous voyez. L'orateur, tout ça, c'est vraiment le truc, l'état des lieux, quoi. Bon, truc chiant, mais il faut en passer par là. Donc, il va leur expliquer tout ce qui se fait depuis plusieurs mois, tout ce qu'on doit faire, tout le dossier fiscal, etc. Mais attention, Aimé Césaire, moi, je suis passé par Aimé Césaire, qui avait travaillé ce texte de Necker, et Aimé Césaire, sur la question de la négritude, hein, ce qu'il appelait lui-même la négritude, la question de la traite négrière. En fait, attention, Necker dit aussi autre chose. Il dit plusieurs choses, alors notamment à propos de la traite négrière, mais il dit à la fin de son discours, c'est pas lui qui le dit, mais après c'est son secrétaire qui le lit, parce qu'il a pu le lire qu'une demi-heure, il tenait un peu moins que moi, il était fatigué aussi. « Arrêtons-nous ici, et ne nous abandonnons pas encore à ces douces et bienheureuses espérances. » C'est-à-dire que là, il y a plusieurs mois d'espérance. Donc il dit « on se calme ». Un jour viendra peut-être où, associant à vos délibérations les députés des colonies, n'ont pas été invités par Louis XVI. Vous savez ce qui se passe? Ils élisent eux-mêmes leurs représentants, sans demander la permission à Louis XVI. Et ils viennent même à Versailles. Et ils vont même participer au jeu de pommes. Alors vous me direz si ce régime monarchique est un régime despotique. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'invitent. Et pourquoi ils s'invitent? Ils s'invitent parce qu'ils ne veulent pas que les décisions se prennent contre leur propriété, contre leur économie, contre leurs esclaves, etc. Vous jetterez un regard de compassion sur ce malheureux peuple dont on a fait tranquillement un barbare objet de trafic, sur ces hommes semblables à nous par la pensée, sur ces hommes que sans pitié pour leurs douloureuses plaintes nous accumulons, nous entassons au fond d'un vaisseau pour aller ensuite à pleine voile les présenter aux chaînes qui les attendent. Moi je présente ça à un élève de collège, hein, je ne mets pas le nom de Necker, lycée, puis même un collègue, hein. Même moi avant je ne connaissais pas ces phrases de Necker. Ça pose problème. Parce que c'est complètement contradictoire, parce que là, on a un administrateur qui sait que c'est pas bien, mais qui dit, attendez, pas bien. Mais il y a plein de choses qui sont pas bien aujourd'hui, qu'on ne change pas. Et donc Necker dit aux membres des États généraux, à propos de ça, c'est pour ça qu'Aimé Césaire, parce que si vous lisez Aimé Césaire vous dit que le français, je vais rester poli, mais le français, il a tout faux par rapport à la traite de ce qu'il lui disait, même le traitement des nègres d'Afrique. Hein, c'est-à-dire, il se dit lui-même, voilà, la question de la négritude, les Français, c'est les droits de l'homme, etc. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est j'ai plus son nom, d'un historien africain qui vient de mourir et qui a écrit sur Aimé Césaire. Donc, ça veut dire en fait, et ça, on va revenir dans le manuel, les députés aux États-Unis, on va expliquer pourquoi, mais dès le lendemain 6 mai, ils sont tellement déçus. Ils se disent, mais c'est quoi? On n'a pas entendu le mot constitution, vous connaissez ça, vous avez lu ça dans les livres d'histoire. On n'a pas entendu le mot constitution, on n'a pas entendu le mot de liberté, on n'a pas entendu le mot de privilège. Le 6 mai, ils se proclament communes, il faut un S, et se dotent d'un doyen en la personne de Jean-Sylvain Bailly. Et à partir du 6 mai, jusqu'au 14-17 juin, le tiers est rejoint par deux curés du Poitou, puis quelques autres, et se proclame Assemblée nationale. Et la question qu'on a complètement oubliée, c'est pourquoi on attend plusieurs semaines pour se proclamer Assemblée nationale. Tout simplement parce que ce que nous, on estime comme étant arithmétique, que l'abbé Sieyès nous a dit et répété, que 96% de la nation, le clergé, la noblesse, on peut s'en passer, ben tout ça, ça peut pas se décider comme ça d'un coup. Donc en fait, il va y avoir des tractations à quelques mètres, hein, je vous ai montré les lieux, et la majorité du clergé, la majorité de la noblesse, il y en a, ne va pas se décider à vérifier les pouvoirs en commun, et le roi les oblige à être chacun dans leur chambre. Voilà comment est née la démocratie française à l'intérieur de 96% de la nation, c'est-à-dire du tiers-état, dans cette salle des menus plaisirs, où pendant des semaines, on a refait le monde. Il y a même un député qui dit « on débat sur l'aile d'une mouche ». Hein, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, si tout le monde veut parler, bon, voilà. On est né dans la cacophonie. C'est beau, hein, en même temps. Bon, c'est ce que raconte Timothy Tackett, hein, dans cette voie. Genre, là, il veut essayer d'y mettre des camps, etc. C'est là où je suis plus trop, cette question-là, mais c'est le bouquin qu'il faut lire, hein. C'est comment les députés aux États généraux sont devenus révolutionnaires. Et, voilà comment se font des figures, Sieyès, Mirabeau. Et puis des gens, ça va être un peu mon fil conducteur, comme Malouet, qui est intendant de marine, qui est membre du tiers-état, et qui, lui, est, disons, un centriste, un modéré. Il y en a beaucoup, hein. Mais en général, ils ferment leur gueule. C'est-à-dire que pendant les états généraux, chez les membres du tiers-état, même Adrien Duquesnoy, je passe ici ce détail, je peux pas parler de tout, mais c'est pour vous expliquer pourquoi ces gens-là ont débattu sur quelque chose qu'on ne pourrait pas comprendre, c'est que Malouet était d'accord pour plutôt, au lieu d'Assemblée nationale, était d'accord pour dire ça. Assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la nation agissant en absence de la mineure partie. Non, c'est pas tendance, hein, ça marche pas comme ça. Mais à l'époque, c'est ça l'historien, mon devoir c'est de vous montrer que si on a passé plusieurs semaines là-dessus, c'est que ça avait sa raison d'être. Voilà, ça avait sa raison d'être, on sert à quelque chose un peu. Et d'autant plus que c'est très loin dans le temps. Et Malouet était plutôt d'accord pour ça. Mais regardez ce que Louis XVI, ça nous paraît fou, parce qu'on se dit, mais il n'avait rien compris, ce gars. Le 16 juin, à la veille de l'Assemblée nationale, voilà ce qu'il dit. Dans une lettre, je désapprouve l'expression répétée, j'aurais dû mettre des guillemets, des classes privilégiées que le tiers-état emploie. Ces expressions inusitées ne sont propres qu'à entretenir un esprit de division. On va expliquer pourquoi, parce que plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'il découvre, quoi. Il découvre qu'en fait, dans le royaume, c'est le feu. Et chez les députés du tiers-état, c'est entendu, de toute façon, il va se passer beaucoup de choses. Et lui est en train de leur dire, écoutez, nuancez les choses. Parce qu'en effet, la noblesse a déjà abandonné ces privilèges fiscaux. Ça, c'est un truc, évidemment, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à accepter. Voilà. Sauf que le monde, sous Louis XVI, ne s'écroule pas comme il va s'écrouler après. Mais il faut bien comprendre ça. Sauf qu'ils veulent garder leur titre honorifique. Leur rang, leur sang, leur siècle, leur terre, leurs racines, leur château. Tout ça, ça ne s'efface pas d'un coup. Et c'est ce qui va se produire. Enfin, il y en a qui disent que les Jacobins ont remplacé les autres dans les châteaux. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. On se projette sur la Révolution française. Un dernier exemple. Le 28 mai, le roi de Louis XVI commence à dire aux députés, bon, maintenant, ça fait un... Maintenant, il faudrait peut-être vaquer, hein, il faudrait peut-être se décider. Et il envoie une lettre. Et Malouet, mais beaucoup d'autres le pensent, ils disent à un moment donné, on va discuter de la lettre, mais il faudrait que tous les étrangers s'en aillent. Alors les étrangers, c'est quoi? C'est le public. Voilà ce que répond Volney, un orientaliste, un philosophe, écrivain de brochures. Nous sommes dans les conjonctures les plus difficiles que nos concitoyens nous environnent de toutes parts. Le public. Qu'ils nous pressent, que leur présence nous inspire et nous anime. Ouh, Malouet, il a dit ça. Voilà, voilà. C'est ça l'ambiance de la salle plénière. Elle est ouverte au public. Donc attention à ce que vous dites. Elle n'ajoutera rien au courage de l'homme qui aime sa patrie et qui veut la servir. Mais elle fera rougir le perfide ou le lâche. Hein, c'est vous, Mounier. Hein? Que le séjour de la cour ou la pusillanimité aurait pu corrompre. C'est-à-dire que concrètement, on est dans la radicalité d'un moment T qui ne va pas durer, mais qui est que pour forcer la liberté, il faut évacuer les gens qui s'en excluent eux-mêmes parce qu'ils s'associent pas, ils n'associent pas le peuple dans leurs délibérations. Et nous sommes nés, Timothy Tacket le montre bien, nous sommes nés au débat parlementaire complètement anarchique, qui était pas, il n'y avait pas encore des règlements, mais avec un peuple environnant. Alors essayez de vous exprimer, vous, avec un peuple environnant, si vous n'êtes pas d'accord avec les plus grandes gueules qui ont une certaine majorité. Adrien Duquesnoy nous le dit, qui pourtant lui sera un révolutionnaire, il dit que ses compagnons, enfin ses Sieyès, Mirabeau, etc., sont des fous furieux. Et alors surtout les Bretons. Alors, voilà, les Bretons, c'est vraiment des radicaux. Bon. Donc on est là en pleine politique. Alors ces gens-là, le samedi matin, donc le samedi matin, on est le 20 juin, vous savez, je ne vous raconte même pas cette histoire-là, quand ils arrivent, comme tous les jours, pour débattre, eh bien on leur dit, non, pendant 2 jours, on va faire des travaux pour que le roi puisse faire son discours le lundi. Alors, attention, ces gens-là ne risquaient pas la prison, mais il y a une tension extrême. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, on sait ce qui se passe, même avant que ça se passe, on sait. Ils ne savent pas ce qui se passe, alors qu'est-ce qui se passe? Et ils se disent, écoutez, non, il faut à tout prix qu'on discute aujourd'hui, on continue à discuter. Donc ils vont aller dans la salle du jeu de pommes, qui est à quelques centaines de mètres. Elle est ici, la salle du jeu de pommes, et si je suis invité le 9 juin, c'est parce que depuis plusieurs mois, ils refont toute la salle, peut-être que vous le savez, voilà, ça va être tout neuf, tout beau, dans laquelle j'ai fait jouer une pièce de théâtre, enfin j'ai fait jouer eux, le théâtre de le Versailles a payé une troupe d'acteurs. Ce serment du jeu de pommes, évidemment, il a été, vous savez, ce fameux serment où les députés se réunissent, ils sont à peine 300, parce que si vous connaissez la salle, c'est très étroit, hein, ne jamais se séparer avant d'avoir rédigé une constitution, dans une réelle peur d'être dissous, en fait. Non pas dans une réelle peur d'être emprisonné, torturé, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, ensuite, c'est la communication. C'est Mirabeau qui répète, ou les députés, évidemment, ils disent « Nous avons risqué le tombeau ». Non, ils n'ont rien risqué du tout. Par contre, ils ont risqué l'engagement qu'ils se faisaient d'avoir... Vous savez, l'expression de Sieyès, c'est « on coupe le câble hein ». Il avait cette expression « on coupe le câble ». Et le câble était coupé. À partir du moment où le câble est coupé, ben, c'est le roi qui doit céder, ou les députés. Et les députés ont tenu, bien entendu, avec ce serment du jeu de pommes, peint par David, qui est une œuvre... par la suite. Adrien Duquesnoy, c'est un personnage important. Pourquoi? Parce que c'est une source aujourd'hui qui a été rééditée d'un journal. Hein, je vous en ai dit quelques mots. Je finis la pièce de théâtre par ses angoisses à lui du soir. Il écrit, comment ça va tourner. Et pourtant, c'est difficile à expliquer ça. En fait, pour lui, il y a deux dangers. C'est que les États généraux soient dissous par le roi, et c'est le peuple. C'est-à-dire, d'un côté, c'est la violence autoritaire du roi, enfin, violence, en tout cas, l'autorité du roi, mais c'est surtout la furie du peuple. Donc, c'est clair. Il le dit sur le moment. Par contre, après, quand vous continuez à lire, il va s'habituer à cette violence révolutionnaire, Adrien Duquesnoy, il deviendra maire de Nancy, il se suicidera au début du 19e, bon, bref, mais il va devenir un révolutionnaire lambda, issu du tiers-état, mais quand il écrit « Ouvrez son journal », c'est quelqu'un qui est extrêmement angoissé par ce qui est en train de se passer. C'est une épreuve de force. Et le discours du roi le 23 juin, au lieu du 22, il leur fait un discours, vous savez, voilà, je passe très vite, hein. En fait, il leur dit « Écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec l'Assemblée nationale, si vous m'abandonnez, eh bien, seul, je ferai le bonheur de mon peuple. » C'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire quoi? Et là, personne, le tiers-état ne va pas céder, l'Assemblée nationale ne va pas céder. Écoutez, vous ne voulez pas m'aider? Ça fait plusieurs mois que je vous dis de m'aider, mais tant pis pour vous, je vais faire seul le bonheur de mon peuple. Sauf que les temps ont changé. Vous savez que Necker a refusé de venir lors de ce discours. Vous imaginez? Marie-Antoinette et Louis XVI en train de prier Necker de venir. Enfin, on change de monde, quoi. On n'est plus dans le monde de la monarchie d'antan. Quel ministre pouvait se permettre ça? Parce que Necker joue pour lui. Déjà, il est étranger, il est suisse, il est protestant, il a même donné beaucoup de son argent. C'est quelqu'un qui fait sa publicité et c'est quelqu'un qui va refuser. Et donc, le 27 juin, le roi va céder. Hein, ça, c'est dans tous les manuels d'histoire. Il va céder, il va demander aux membres du clergé, aux membres de la noblesse, de les rejoindre dans ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Fin de l'histoire dans ce domaine-là. Et c'est à cette occasion que Mirabeau prononce, je passe vite, cette fameuse phrase, qui maintenant est dans un tout autre contexte quand même. Nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Mais sortir d'où? De cette salle dans laquelle on parle depuis plusieurs semaines. Où le marquis de Drebrézé, enfin, il faut voir le marquis de Drebrézé, vous le voyez dans les films, surtout dans le film caricatural de Robert Enrico de 1989, un gars poudré, magnifique, et puis qui leur dit, écoutez, maintenant il faudrait sortir. On est dans la légende, on est dans le mythe. Mais on est dans cette tension, par contre, attention. Et c'est Louis XVI qui aurait répondu au marquis de Drebrézé, eh bien, foutre qu'il reste. Hein, il est en train de manger, bon, voilà. Ça, c'est caricatural. Le film de 89 est d'une caricature extraordinaire. Mais en même temps, il est très utile. Je l'ai passé dans mes élèves de lycée. Aujourd'hui, il commence à devenir très, très lourd. Très, très lourd. Symptomatique d'une historiographie complètement périmée. Alors, pourquoi tout ça? Mais pourquoi tout ça? Pourquoi le roi Louis XVI a scié la branche sur laquelle il était? Parce que si vous avez déjà essayé de le faire, ça, moi jamais, hein, sauf si je perds la boule, vous verrez jamais quelqu'un scier la branche sur laquelle il est. C'est, politiquement, c'est pas possible. Donc, le rôle de l'historien, de l'anthropologue, du sociologue, j'ai expliqué pourquoi. Hein, je parlais de Jacques Chirac tout à l'heure, mais c'est un peu ça. L'appel du 5 juillet 1788. Bien, le 5 juillet 88, en plus de convoquer les États généraux, Louis XVI va faire un arrêt qui va tout déclencher, qui aujourd'hui est de plus en plus exhumé par les historiens, qui a été entendu et répété, rabâché dans tout le royaume. Sa Majesté cherchera toujours à se rapprocher des formes anciennement usitées, mais lorsqu'elles ne pourront être constatées, elle ne veut supplier au silence des anciens monuments, d'ailleurs bon, on ne sait pas comment faire, qu'en demandant avant toute détermination le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée, j'ai souligné, comme à l'école, vraiment nationale. Mais pour Louis XVI, l'Assemblée vraiment nationale, ce sont des États généraux qui représentent le monde de l'époque, qui va lui donner ses conseils et lui, il va décider. Donc il savait tout ça. Donc en fait, c'est une libération de la parole quasi complète. C'était déjà le cas avant. Vous savez que moi, je fais travailler des étudiants là-dessus. On ne parlait pas d'États généraux dans la presse clandestine que depuis 1787. On n'en parlait pas avant. C'était pas un sujet de débat. On n'en parlait pas. C'est pas une revendication. Mais à partir du moment où, dans ce contexte-là, Louis XVI dit « Aidez-moi », et là, je peux vous dire que les Français vont pas se priver. Et à partir du mois d'août, on va écrire. Les plus grands savants, les plus obscurs publicistes vont écrire sur tout, même les femmes, même sur les pauvres, sur tout. C'est ça, le Français. Il est né à la démocratie comme ça, parlementaire. Donc après, il a fallu le calmer. C'est toute la question, puisqu'on le fait au nom du peuple. Arrêt de 1788. Bon, je passe très vite sur les photos qui m'ont donné l'occasion, parce qu'il est très tard. Je vois, il est 4h10, donc il va falloir que j'accélère. Je passe très vite, mais on en parlera si vous êtes intéressé, au moins pour discuter sur la pièce de théâtre. C'est que le château de Versailles m'avait demandé, en plus d'une conférence, que j'ai faite à l'auditorium, m'avait dit « Est-ce que vous ne pouvez pas nous sélectionner des textes qui ont été prononcés dans la salle du jeu de pommes ?» À nouveau, la salle du jeu de pommes. La salle du jeu de pommes, vous savez, c'est pas dit grand-chose à part le serment. Et du coup, comme j'étais en pleine archive, etc., j'ai fait un travail sur les brochures et les discours, une pièce de théâtre. Et donc le livre que vous avez sous les yeux est un livret qui peut servir à une troupe de théâtre. J'avais quand même les moyens, ils avaient mis les moyens, j'avais des acteurs, une metteur en scène, c'était génial. Hein. J'avoue que je suis arrivé en vedette américaine, pas aussi bien reçue que vous au niveau de la technologie et des médias, mais quand même, parce que rien n'était filmé, c'est moi qui ai enregistré. Et c'est moi qui ai pris une photo qui est dans le des acteurs, d'ailleurs. Et donc, ça a été un moment magique, autant vous le dire. Un spectacle de une heure où je fais discuter toutes les questions sur la liberté de la presse, sur etc. Avant, comme pendant les stagiaires, je fais terminer ça au soir du jeu de pommes, d'envoyer quelques images de cette soirée merveilleuse que j'ai vécue. Ça a été un one-shot, comme on dit. Hein. C'était le 24 mai hein, 2019. Voilà, la troupe de théâtre, et voilà le livre. La troupe de théâtre, vous voyez, c'était des acteurs. Et donc, j'ai créé un personnage fictif qui s'appelle Augustin Fleury, qui est un colporteur et qui déambule. Vous voyez ? J'ai même à un moment donné de proposer mes services. Parce que peut-être dans une autre vie, j'ai voulu être acteur, peut-être, ou vouloir faire du théâtre. Donc, on m'avait dit, restez à votre place. Et en fait, je suis arrivé plus tôt. Ils n'ont pas voulu que je regarde la répétition dans la salle du jeu de pommes, c'est normal, ils avaient peur que j'ai des mots à dire. Non, ils ont été extraordinaires, il y en a même qui ont appris, celui-là, il a joué Mirabeau, il était extraordinaire, il connaissait tous les textes par cœur. C'était bluffant, franchement, c'était bluffant. C'est pas parce que j'ai écrit, mais c'était bluffant. Franchement, ils ont été merveilleux, très sympas. Ils ont joué le jeu, alors peut-être aussi, je dois reconnaître, et c'était mon but, parce qu'après je l'ai publié, que j'ai donné tous les conseils que j'imaginais. C'est pour ça que je me suis pris pour un acteur. Presque pour un réalisateur aussi, vous voyez. Parce que un historien, c'est ça, vous savez, parfois il ricane dans ses archives, parce qu'il lit des trucs marrants, mais il n'y a que lui que ça fait rire. Hein, bon, après, il essaie de le transmettre dans ses cours ou dans ses conférences. Alors, là, je vais être plus rapide. En fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, je vais poser une question qui est paradoxale, c'est que ces états généraux, pour beaucoup, il y a danger. Et pour ceux qui ont le courage de le dire, on n'aurait jamais dû les convoquer. Et surtout, ce qui est discuté dans les brochures qui sont méconnues, surtout en attendant 10 mois. Vous vous rendez compte, 10 mois de campagne électorale. Quand on dit aujourd'hui que ça part trop tôt, ou que ça part trop tard. Regardez. Bon. Parfois au mois de décembre, au mois de novembre, on a l'impression qu'on était au cœur de la campagne électorale, on n'y était pas, Zemmour était déjà épuisé, par exemple, vous voyez. Il y a beaucoup parlé, puis après, voilà, il y en a qui sont partis trop tard. C'est ça, c'est la stratégie démocratique. Mais là, on navigue à vue. 10 mois de campagne électorale. Alors Calonne, ancien ministre, vous savez, lui qui avait présenté le plan de réforme par le haut, et qui savait que c'était redoutable de convoquer la nation. Eh bien, il se lâche, il écrit une lettre publique au roi, le 9 février, mais moi je la fais étudier à mes étudiants, alors parfois ils sont surpris, parce que quand ils lisent la lettre de Calonne, ils se disent « Merde, mais on m'aurait menti ». Et en fait, Calonne, il vous dit exactement ce qui va se passer. Et pourquoi ça va se passer? Parce qu'il vous dit « Mais écoutez, sire, c'est pas possible, dix mois, on a attendu trop de temps ». Il s'est écrit des choses qui disent que la pire des choses de l'humanité, c'est la monarchie. Donc il est en train de dire que ça nous conduit à la guerre civile. Que ça nous conduit à la fin de la monarchie. Et c'est un grand ministre qui le dit. Alors évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais moi je connais Calonne, il va devenir le chef de la contre-révolution. Ben, quand vous avez eu une opinion et qu'on vous a donné raison, vous changez d'avis, vous ? Non ? Non. C'est pas parce qu'à un moment donné vous avez vu les choses que vous allez... Il y a plein de gens qui vont ensuite devenir contre-révolutionnaires, mais qui sont enthousiastes par ce qui se passe. Comme lui. Jacques Mallet-Dupont, c'est un journaliste suisse extraordinaire, qui va être tenté, quand il va voir ce qui va se produire, il va se dire, merde, comme beaucoup, c'est formidable ce qui se passe. Mais en octobre, il dit des choses, j'ai pas le temps de vous le lire, mais il dit, en fait, il n'y a pas une seule idée qui est commune. Chaque Français a son idée sur la Constitution. Il y en a qui veulent la République, il y en a qui veulent la monarchie. C'est-à-dire, moi, je travaille sur des sources qui sont plutôt rares, mais qui sont... Parce que c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas l'identité commune de tous ces textes qui demandent le doublement du tiers ou Sieyès, qu'on va vous montrer. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ça, ça a été travaillé parce qu'eux, ils sont proactifs. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils nous décrivent un monde qui va se faire demain, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas dans les grandes lignes. La fin des ordres, bon, une constitution, etc. Non, il y en a qui disent ça va trop vite. Il pleut des pamphlets, il pleut des brochures, et ça sent pas bon. Et notamment, par exemple, quand vous avez je l'ai mis ici parce qu'il y en a tellement des centaines, Rabot Saint-Étienne, qui est un protestant nîmois, un grand révolutionnaire, qui sera un grand révolutionnaire, il s'appelle Jean-Paul Rabot Saint-Étienne. Et il a cette phrase qui est représentative de beaucoup de brochures. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut plus regarder derrière nous. L'histoire, c'est fini. Et c'est cette phrase qu'aujourd'hui les historiens exhument, qui n'est pas répétée, mais qui est répétée d'une manière différente. L'histoire n'est pas notre code. Et c'est Zemmour, dans son chapitre 3 du Suicide français, qui vous titre dans son chapitre. Alors Zemmour, je n'ai pas besoin de résumer, hein, la France de De Gaulle, la nostalgie d'un monde, c'est son credo. Ben, il vous titre ça. Il utilise la phrase de Rabot Saint-Étienne avec des guillemets, et il dit « l'histoire n'est pas leur code ». Je crois que c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, en fait, il dit « non, l'histoire doit être notre code ». C'est ce qu'il dit, Zemmour, mais il n'est pas le seul à le dire. Et voilà, c'est notre monde, les anciens et les modernes, dont on parlait tout à l'heure, d'aujourd'hui. Et donc, Rabot Saint-Étienne, là, je vous le sors comme ça, mais c'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire l'abandon de toutes les traditions, ce que va dénoncer en 90 Edmund Burke. Parce que c'est quand même paradoxal d'avoir le premier grand contre-révolutionnaire qui est un démocrate anglais. Posons-nous cette question. Alors oui, ça va être un des leaders intellectuels de la contre-révolution, certes, mais en fait c'est quelqu'un qui a quand même été très favorable à l'indépendance américaine, à la République américaine. Alors moi je voudrais comprendre. Et comment on le comprend? Ben, en disant qu'on est entré en démocratie comme ça. C'est-à-dire dans cet espace de liberté extraordinaire où tout peut se dire, parce qu'il n'y a pas que Rabot Saint-Étienne, il y a, bon, Sieyès que je ne vous présente pas, hein, alors lui, c'est le roi du slogan, mais enfin, il faut voir aussi sa carrière par la suite, hein, il ne va plus rien faire. Dès le mois d'août, on supprime la dîme. Qu'est-ce qu'il dit à l'Assemblée complètement démoralisée? Ils veulent être libres, mais ils ne savent pas être justes, parce qu'on a supprimé brutalement la dîme. Franchement, aujourd'hui, c'est très facile de lui dire, t'es qu'à pas foutre ce bordel aussi. Mais là, je le dis vulgairement. Enfin, bon, quand vous avez un tel slogan efficace, un Jean-Denis Brodin, c'est une biographie magnifique, hein, qui s'appelle La clé de la Révolution française, où il nous explique que Sieyès, là, il a inventé une arme de guerre extraordinaire, mais qu'il a complètement dépassé. Ça, c'est la valeur arithmétique. Et moi, j'étudie des gens qui vous disent, oui, l'arithmétique, c'est bien joli, mais c'est pas tout. Et la France, vous savez, elle va rentrer en révolution à la Condorcet arithmétique, voilà, y compris même en voulant faire nos départements. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que ces textes, qui sont très méconnus des brochures et pas des cahiers de doléances, encore une fois, sont une radioscopie, là, cette fois-ci, plutôt culturelle et politique que du terre-à-terre, c'est-à-dire ce qui se passe dans les provinces, etc. Et puis, il y en a d'autres. Alors, il y a le prince du sang. Mais tout le monde est d'accord avec la liberté de publier ses opinions, même mes magistrats. Le droit de presse, il est demandé. La liberté de la presse, elle est demandée. La question, vous savez, elle affleure, on a parlé de Malesherbes tout à l'heure, mais Malesherbes a une demande du roi, il dit, il en arrive à dire, on peut tout publier, et puis si l'opinion publique veut nous jeter l'opprobre, elle le fera. Vous vous rendez compte? Malesherbes aujourd'hui, le grand Malesherbes aujourd'hui, il n'a plus sa place dans notre monde. Si on veut le transposer. Parce qu'en fait, j'ai le droit de tout dire. Sauf si vous me huez, ou vous me dites, non, allez, écoutez, on ne veut plus vous entendre avec toutes les choses que vous dites, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la loi pour plein de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez là un prince du sang qui vous propose dans de multiples points quasiment un programme qui serait un peu à l'anglaise, la liberté de la presse, la responsabilité des ministres, les magistrats le demandent, etc. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que maintenant, il faut couper le câble. La question, maintenant, c'est que les députés commencent à avoir des stratégies, à avoir des regroupements. Puis imagine quand ils vont bouffer ensemble. Enfin, pas grand-chose, hein, parce qu'ils sont pas très riches, mais même beaucoup. À Versailles, ils vont commencer à discuter. Ils vont commencer à trouver des stratégies communes. Alors, comme dit Charles Maurras, il ne faudrait pas que je le cite, mais il dit qu'en fait, c'est une entente extrêmement momentanée. C'est pour ça qu'il en veut à la Révolution française. C'est qu'en fait, la Révolution française, l'entente, elle va durer quelques heures, quasiment. Voilà. Mais après, il va y avoir le 14 juillet, c'est une autre affaire. Et puis alors, il n'y a pas que lui. Il y a lui. Je le mets en exemple à la conférence, Jean-Paul Marat. Oh, on va dire, c'est pas le Mélenchon de l'époque, mais enfin, c'est le fanal. Vous voyez, c'est la lanterne, c'est celui qui nous montre la voie. Et pendant toute la Révolution, il va dire beaucoup de vérités, Marat, en tant que journaliste. C'est le Mediapart de l'époque, si je puis dire. Il va tout écrire dans L'Ami du Peuple. Et lui, c'est pareil. Mais lui, en 1775, il a écrit quand même un livre qui s'appelle Les chaînes de l'esclavage. Il l'écrit à Londres, et en fait, en gros, hein, en gros, vraiment en gros, il dit aux Anglais, allez vous rhabiller, quoi, parce que votre démocratie parlementaire, c'est pire que l'absolutisme. C'est pire que tout despotisme. Vous voyez ? Et lui aussi, il s'offre une tribune. Il n'est pas député, hein. Ce sera plus tard, mais il n'est pas député. Donc en fait, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire, il y a la droite et la gauche. Moi, j'étudie sur ça. J'ai un des sous-titres d'une conclusion de mon premier volume, c'est ça. Les préludes à la gauche et à la droite. Ce n'est pas encore la droite parlementaire ou la gauche parlementaire. Sauf que c'est un manège. Hein. Moi, j'imagine. Vous savez, la droite et la gauche, c'est comme un manège sur lequel vous ne pouvez pas monter. Vous savez, ça vous est déjà arrivé pour récupérer votre gosse dans le manège. Vous avez du mal à le récupérer. Eux le savent là-bas derrière. Donc, regardez un noble libéral, le comte Stanislas Clermont-Tonnerre, qui vous dit ici, en février 89, pourtant il est libéral, il est favorable à une monarchie, il fait partie des 47 libéraux qui vont rejoindre le tiers-état, mais avant il dit, si les états généraux dans ces moments d'aveuglement s'avisent de persister dans leurs prétentions et de vouloir soumettre l'autorité royale à celle de la nation assemblée, qu'en arrivera-t-il? Le roi dissoudra les états généraux. Oui, mais les états généraux se laisseront-ils dissoudre? Non, pas vraisemblablement. Et le texte est très long. Et aussi ce texte contre la multiplicité et le danger des brochures. Avril 89. Mais dirons-nous, c'est du choc des idées que naît la lumière. Mais du moment que l'on écrit pour le seul plaisir de disputer, que les invectives et les personnalités s'en mêlent, les têtes s'échauffent, et au lieu de concourir au bien général, on ne fait qu'en éliminer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont tous dans un train qui va à une vitesse telle, qu'ils sont à la fois sous d'enthousiasme et terrorisés, angoissés. Voilà. Alors, je vous passe les références à Henri IV, mais on se croit déjà arrivé. Hein, regardez La poule au pot ou Mon tribut à la patrie, février 89. Comment voulez-vous ne pas être déçu après le discours de Jacques Necker quand on vous dit on implore Louis XVI d'achever un si sublime ouvrage et d'être en tout notre père et notre aréopage, la féodalité souille le nom français, qu'elle entre en enfer et n'en sorte jamais. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un paradigme. Un paradigme que je choisis ici n'en efface pas un autre. Il accompagne d'autres paradigmes. Et l'histoire de la Révolution française, elle se fait souvent non pas avec un paradigme, mais avec une idée qu'on vous assène. C'est-à-dire l'idée qui est que cette révolution, elle est indépassable et que tous ceux qui vont s'y opposer, comme les révolutionnaires le disaient, vont passer à la trappe. Et ils vont être déçus, ils vont passer à la trappe au fur et à mesure. D'où le tourniquet et le manège de la gauche à la droite. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui étaient enthousiastes à la révolution, Malé Dupan, qui est un Suisse, mais qui est un journaliste, est enthousiaste, mais très vite, il déchante, comme beaucoup. Et puis après, il y en a comme Sieyès, qui pourtant sont déçus. Le vin est tiré, il faut le boire. La France va devenir ce qu'elle est devenue, mais alors avec cette culture politique dont nous sommes issus, hein, un peu comme notre enfance, hein, tout se passe avant 7 ans, disait l'autre, hein. Ben, c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça. Et si vous réfléchissez par rapport à ce paradigme, vous y trouvez beaucoup de portes d'entrée pour comprendre comment nous comportons au-delà de nos opinions politiques. Je passe cette image ici. Voilà cette phrase très célèbre de Malouet, qui est un peu mon fil conducteur, à la fois dans la pièce de théâtre, un petit peu moins, parce que dans le livre de Versailles à Versailles, je parle de beaucoup, beaucoup de députés, mais Malouet qui dit cette phrase qu'a relevée Timothy Tacquet, qui est célèbre, parce que ça, c'est une réalité. On ne sait comment, sans plan, sans but déterminé, des hommes divisés dans leurs intentions, leurs mœurs, leurs intérêts, ont pu suivre la même route et arriver de concert à une subversion totale. Nous sommes nés de là. Mais encore faut-il bien l'expliquer pour mieux le digérer et le comprendre. Et lui, il l'écrit en 1808, c'est comme ça que je commence la pièce de théâtre. Avec une voix off, vous voyez, où il est en train d'écrire. Puis après, je laisse les députés discuter, se disputer aussi. Alors, pour conclure, parce que mon troisième point, à la fois par rapport au temps et par rapport au rythme que j'ai ici, à qui la faute? Alors, un roi trop libéral et réformateur, je vous ai dit, ou à une histoire comptable de tous les siècles, vous aurez compris que c'est les deux. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il faut ouvrir la Révolution française au public. Encore une fois, comme j'essaie de le faire ici, avec les mêmes sources. C'est quand même terrible, en 2022, d'utiliser les mêmes sources et d'opposer des historiens qui ont eu des idées différentes pour des raisons politiques différentes. C'est pas parce que Zemmour utilise Hippolyte Taine que je dois effacer Hippolyte Taine. Hippolyte Taine est peut-être celui qui a écrit Les origines de la France contemporaine, mais qui n'a pas meilleur connaisseur du XVIIIe siècle. Et Ce cas, il a une dent contre la Révolution. Il écrit à la fin du 19e. Mais il faut nettoyer un peu ça. C'est-à-dire que vous pouvez nettoyer les dires des historiens de leur venin. Hein. Vous savez pourquoi, avant François Furet, on ne lisait pas beaucoup Tocqueville ? Lisez la fin de l'Ancien Régime et la Révolution. Vous verrez ce qu'il dit de la Révolution. Il dit, en fait, ça ne servit à rien. C'est quand même dingue. Et Furet était un révisionniste. Alors déjà, le mot révisionniste, François Furet. Et oui, et oui. Moi, j'ai bien connu Claude Mazoric, qui m'a donné l'occasion de faire des cours à Rouen, mais c'était tous des communistes. J'ai avec Claude Mazoric, il était l'élève de Saumoul. Et il avait été chargé de laminer Furet à la fin des années 60. Il est encore vivant, Claude Mazoric, c'est un gars charmant. J'aime beaucoup. Mais bon, voilà, c'est quand même lourd de doxa. Hein, et, alors maintenant, ça a passé un peu, ça intéresse moins aussi. Alors, Louis XVI a été le roi qui a réformé le plus. Quand vous faites tous les châteaux, je prends un exemple, quand vous faites tous les châteaux de la région de l'Île-de-France, les travaux sont tous abandonnés, on n'a plus un rond. Les pensions sont aussi diminuées, mais c'est une question de perspective. Et donc, en fait, l'abolition de la torture, l'édit de tolérance civile des protestants, mais qui passe toujours par le Parlement. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, c'est pas un despote éclairé, Louis XVI. C'est ça qui est important. On passe par les parlements, donc les parlements se sont exprimés. Vous savez, quand on a voulu supprimer la corvée, que d'ailleurs les Français ne voulaient pas parce qu'il fallait donner de l'argent, donc ils préféraient aller travailler pour le pont du Seigneur, etc., plutôt que de payer un impôt. Ou alors, dans ce cas-là, on supprime tout. Ben, les parlementaires ont dit, on n'est pas d'accord, parce que si vous supprimez la corvée, c'est la fin des rangs. Ben, ils n'étaient pas cons, ils avaient compris. Hein. C'est la fin des rangs. Donc, plutôt, disons, non, nous, on ne peut pas accepter que la corvée royale, la corvée soit supprimée. Parce que sinon, pourquoi je suis noble, pourquoi vous êtes du tiers d'État? Donc, c'est ça qui est compliqué sous l'Ancien Régime. Jacques Necker au notable, à la deuxième assemblée de notables, voilà comment il s'adresse à propos des membres du tiers-État. Hein, ils doivent en juste retour de l'estime et de la confiance. Bon, c'est plus que de l'estime et plus de la confiance que les membres du tiers-État voulaient. C'est une place dans la société, dans une société citoyenne. C'est pour ça que quand ils arrivent à Versailles, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de brochures et le nombre de textes et même le nombre de phrases où ils disent « mais on se fout de nous ». On veut me faire apporter, hein, vous savez, le costume noir, là, de mettre des requêtes, là. Mais j'ai une brochure, vous pouvez regarder, sur le costume, où ils disent, mais attendez, nous, on est des sujets du roi, on veut réformer les abus, on veut pas s'habiller comme des clowns. Parce que c'est un peu ça qu'ils disent, hein. Donc, en fait, la messe est presque dite, mais on sait pas comment elle va être prononcée par la suite. Bon, voilà. Et puis alors, là, je vous le dis à la fin, mais le règlement électoral, je vous ai dit que les États généraux, c'était une opération de com'. Mais Louis XVI, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Il dit, réunissez-vous, puis vous me direz après ce que vous aurez décidé. C'est quand même un truc de dingue. Non, c'est pas un truc de dingue. C'est parce que le règlement électoral a tout autorisé. Y compris ce que les membres du tiers-État ne voulaient pas et avaient interdit de faire. C'est déjà la politique républicaine du « faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais ». Là, j'exagère. Mais Sieyès avait dit, il faut que voilà, chaque membre d'un ordre se présente dans l'ordre. Et comme il ne pouvait pas se faire élire dans le clergé, il se fait élire dans le tiers-état. Et Mirabeau, comme de toute façon personne ne pouvait le saquer, il se fait élire avec son grand talent d'orateur dans le tiers-état de Provence. Donc, attendez, ça c'est une question qu'on a complètement oubliée. Et surtout, beaucoup de nobles veulent rejoindre le tiers-état, mais le tiers-état ne le veut pas, et notamment à Paris. Parce que vous comprenez, ça fout tout en l'air. C'est déjà la politique. C'est déjà de la politique. C'est comme Mirabeau qui est contre le veto suspensif du roi en septembre, mais qui ne vote pas pour ne pas être intégré aux monarchistes noirs, aux aristocrates noirs. C'est un peu comme celui qui dit « Non, je ne suis pas d'accord, mais je ne veux pas voter à l'extrême droite ». C'est pareil. C'est la même stratégie politique. C'est de la stratégie politique, c'est la stratégie électorale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Mais très vite, une fois que le roi a cédé, le roi ne joue pas une mascarade, mais il est forcé, il est contraint. Il est contraint, et voilà ce que dit Hannah Arendt dans son essai sur la Révolution. Vous savez qu'Hannah Arendt, après on discute philosophiquement, techniquement, les politistes discutent, savoir si... Mais concrètement, l'idée d'Hannah Arendt, c'était quoi? C'était de dire qu'en fait, il n'y en a qu'une révolution, c'est la révolution anglaise pour la liberté, qui est devenue la révolution américaine. Les Américains, ce sont des Anglais. La révolution française, il n'y a pas de socle. Il n'y a pas de socle, en fait. Donc elle ne, vous savez, c'est un peu, vous savez, si vous avez des souvenirs de Victor Hugo de 93, ça commence par une grande tempête. Vous savez, et c'est l'allégorie de la Révolution avec les canons qui passent de bâbord à tribord dans la tempête. Et ça, c'est la Révolution française. C'est qu'en fait, elle ne s'arrête jamais. C'est une machine à laver, en fait. Et vous êtes dedans. Donc, en fait, moi, on m'a demandé de faire une conférence le 9 juin. Vous imaginez, ils l'ont bonne à Versailles. Hein. Faites-nous une conférence sur qui ils étaient avant, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus, en 1h15. Là, vous voyez, j'ai déjà passé le temps. Bon, elle est prête, hein, mais bon, ça va être chaud, quand même. Mais j'ai pris 5 exemples. 6 députés. Les masses du peuple souffrant dans les rues sans y être priés ni invités par ceux qui devinrent leurs organisateurs et leurs porte-parole descendirent dans les rues. Il fallut par la suite répondre aux exigences furieuses de la nécessité économique et sociale, et cette pression de plus en plus forte dénatura la quête de la liberté politique. C'est une chose que même des historiens du XIXe siècle, je pense à Ratteri, un vieil historien sur les états généraux, dit. On s'en féliciter sous la République, qu'on a conquis, nous, l'égalité, l'idée de République, avant même la liberté. Et la liberté, c'est pour ça que la Révolution américaine, elle est complètement délaissée par les révolutions européennes, etc. Parce que, bon, finalement, qu'est-ce qu'ils ont conquis? Ben, une paille, la liberté. Mais la liberté, c'est compliqué. Bon, l'égalité, c'est encore plus compliqué, parce que c'est laquelle? Devant la loi, l'égalité, c'est compliqué. Et nous, les Français, notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Rendez compte du défi. C'est antinomique, oui, bien sûr, mais c'est la nôtre. Genre, on est français. Voilà, quand on va à la mairie, ben, liberté, je ne veux pas arriver au fronton et enlever. Et on est d'accord.
En résumant, les anglo-saxons ont toujours, dans leur révolution, privilégié la liberté.
Exactement.
Donc, les Français ont voulu privilégier l'égalité.
C'est pas. Alors, ils ont voulu, mais la conférence sur laquelle, là, je termine, et vous allez voir le seul exemple que je cite. La conférence veut montrer, mes travaux essayent de montrer par les textes, hein, cette fois-ci, c'est-à-dire en fait, non pas que c'est prévisible, mais c'est lisible. C'est-à-dire, c'est pas prévisible dans le scénario, c'est lisible. Lisez la lettre de Calonne du 9 février, je vous dis, même j'ai eu une étudiante un jour qui travaille sur les textes du libéral, là, que je vous ai montré, Clermont-Tonnerre, qui va être, entre parenthèses, lynché, lors du 10 août 92, mais ce pauvre Clermont-Tonnerre qui dit mais en fait c'est pas possible, il y a trop de liberté de la presse là où on va. Alors elle comprend pas, l'étudiante, je comprends très bien. Elle comprend pas parce qu'elle se dit mais c'est qui ce prof là, ce réactionnaire qui me fait travailler des textes où on me dit oui, mais parce qu'en fait le paradigme il est complètement inversé. Et c'est ce qu'on vous dit, on vous dit qu'il y avait pas de liberté. Mais non, il y avait pas de liberté. Ben oui, il fallait pas insulter le roi. Ben oui, nous aussi, aujourd'hui, on se permet d'insulter le président. Ah oui, là, j'ai rien pour Macron, tout ça, je m'en fous. Mais genre, concrètement, on est surtout intéressé par nous-mêmes, notre nombril, ici un tel, plutôt que la présidence de la République, les symboles, etc. Voilà, c'est comme ça, c'est notre époque. Mais c'est quand même fondamental. Et donc l'idée, c'est pas de contredire ce qui s'est produit, c'est d'essayer de se donner les moyens pour comprendre, non pas que ces gens-là ont été visionnaires. On n'est jamais visionnaire. On part simplement, Calonne, il part de ce principe-là. Et il va devenir, c'est quand même intéressant, mais c'est pas, je ne vous demande pas de devenir, dis-moi, un contre-révolutionnaire, c'est pas ça. Mais il va devenir, pendant 2 années, un des leaders de la contre-révolution. Mais encore une fois, vous avez trouvé quelqu'un qui avait tout deviné et qui change d'avis. Non? Et Sieyès, il avait tout, il avait voulu prévoir, il ne change pas d'avis, parce que, vous savez, ce qui répond au comte de Montlosier, à la fin, Montlosier, c'est un noble, il arrive à l'Assemblée à fin août, il était suppléant. Il se dit, mais c'est quoi ce monde de fou, là? Il lui dit, mais c'est un truc de dingue. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, là? Et Sieyès lui répond, il réfléchit, puis lui répond, il dit, se terrer, attendre, se terrer. C'est-à-dire, en fait, il va travailler pendant plusieurs années, Sieyès, et après, il va ressortir du chapeau pour nous offrir la fameuse épée à la Révolution, la plus courte qui fut, oui, d'accord, ok, enfin, pour le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Donc, voilà. Donc, d'où la phrase que je vous ai dit tout à l'heure de Napoléon, c'est un peu comme ça, quand il lui dit à Sieyès, il lui dit, bon, allez, maintenant, on a fini de faire des constitutions avec les enfants, là. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ce que disait Napoléon d'une bonne constitution. Une bonne constitution, c'est une constitution qui marche. Bon, donc, en fait, on pourrait comparer les 10 années de révolution à un roman formidable dont je n'ai pas parlé, hein, qui finit malheureusement, puis après bon, mais qui est un stade aujourd'hui, les historiens le disent, d'expérimentation, c'est-à-dire en fait le français a tout fait tout vite et il est vite revenu en arrière. Et c'est comme ça que vous expliquez beaucoup de choses. Les révolutions du 19e, où le peuple est toujours cocu, concrètement c'est ça, y compris la Commune de Paris, le peuple au sens barricade, etc. Et aussi, d'une certaine manière, les hommes forts, Napoléon en particulier. Parce que c'est bien joli de nous dire que Napoléon est là parce que on a, parce que lui c'est de sa faute et on a gâché une révolution. Laquelle révolution? C'est ça le problème. Laquelle? Alors c'est tout, vous voyez, c'est toute une réflexion d'ensemble. Et voilà. Et donc je passe ici, vous aurez cette phrase de Malouet qui dit au moment où on fait la déclaration des droits de l'homme dans un enthousiasme fou, il dit ces phrases extrêmement sensées pour un historien, c'est formidable de travailler ça. Il dit « Opérons tous ces biens, messieurs, ou commençons au moins à les opérer avant de prononcer d'une manière absolue aux hommes souffrants, aux hommes dépourvus de lumière et de moyens qu'ils sont égaux en droit aux plus puissants, aux plus fortunés. Surtout, ne leur offrons pas ce qu'on ne peut pas leur donner. » Mais ça ne veut pas dire que dans les circonstances de l'été, il n'y avait pas d'autre choix. Il se trouve que c'est le choix que ces événements que j'étudie, moi, culturellement, de 88-89, ont conduit à ce train qui ne peut plus s'arrêter. Parce que la Révolution, c'est un train qu'on ne peut plus arrêter jusqu'à la Terreur. Et jusqu'à, je termine, je suis le sympathique Louis XVI quand même. Mais vous savez, Louis XVI, quand il doit revenir à Paris, hein, il doit s'installer aux Tuileries, vous le savez. Eh bien, voilà ce qu'il dit quand il doit signer les droits de l'homme. On lui dit c'est ça ou on répond plus de rien. Donc il signe la déclaration de droits de l'homme et citoyen. Il dit « La déclaration contient de bonnes maximes propres à guider vos travaux, mais des principes susceptibles d'application et même d'interprétation différentes ne peuvent être justement appréciés et n'ont besoin de l'être qu'au moment où leur véritable sens est fixé par les lois auxquelles ils doivent servir de première base. » Évidemment, Louis XVI pensait au fait que lui, il y avait les lois fondamentales et qu'on pouvait avancer, mais tranquillement. Comme avait dit Necker, vous savez, Necker qui avait dit au moment des états généraux, qui va piano, va sano. On peut arrêter. Je vous remercie. Pas du tout.
Alors, je prendrai, si vous voulez bien, une question, parce qu'il est déjà tard, très tard même. Alors, une question. À Mireille.
Allez, deux.
Bon, alors, Mireille, mais une question courte.
J'ai dit très courte. Est-ce que l'un des orateurs là, du tiers-État a fait référence explicitement à de la servitude volontaire de la Boétie? Parce que je trouve que les propos de Marat sont très proches de ceux de la Boétie. Merci.
Ben, votre question, en fait, elle est représentative de ce qu'est le français. Mais elle est très juste. Le français, excusez-moi. Alors, la française, le français, je vais pas écrire en inclusion. Oui, bien sûr. Pourquoi je dis ça? Ben, parce que ce que vous dites est tout à fait vrai. Et presque une confirmation de ce que je veux essayer de vous dire pour comprendre la Révolution française. C'est-à-dire que ça a fait de nous des êtres politiques extrêmement sensibles à la liberté individuelle, extrêmement aussi érudits en référence, hein, la Boétie, et en même temps, au niveau supérieur de l'organisation de la société et de l'État, des gens qui ont vécu deux siècles de soubresauts extraordinaires. Parce que tous les pays démocratiques n'ont pas connu cinq républiques. Tous les pays démocratiques n'ont pas connu des révolutions avec des barricades. Et ce qui fait que tout le monde, à la fois, s'y retrouve, en fonction de ses opinions, et en même temps, peut être à l'extrême gauche de celui qui privilégie on va dire peut-être l'anarchie ou l'absence d'État ou une liberté, nous sommes les propres esclaves, en effet, nous sommes nos propres esclaves, c'est la servitude volontaire, à celui qui va ce que je définis comme étant la droite, parce qu'en fait, finalement, la droite, c'est quoi? Et elle s'exprime déjà en 88. La droite, c'est surtout, ça ne veut pas dire ne pas être éclairé, au contraire, ça va être vraiment, moi j'en connais beaucoup, ils sont extrêmement éclairés, ces gens-là, ce qu'ils privilégient, la tradition, la stabilité et l'ordre. Et concrètement, moi, c'est comme ça que je travaille. Il y a beaucoup d'historiens, des politistes qui travaillent sur la droite et la gauche, hein, Roberto Nobbio, René Raymond, mais René Raymond ne travaille pas trop sur la période antérévolutionnaire, qui travaillent sur cette notion de gauche et de droite qui est passionnante et qui, d'ailleurs, qui revient au goût du jour aujourd'hui parce qu'on est paumé, hein, on ne sait plus notre droite, notre gauche, mais parce que, comme disait Sartre, c'est une boîte vide. C'est une boîte vide. Donc, en effet, vous avez reconnu dans Marat ça. Et moi, ce que je voulais vous dire, parce qu'on a tous un intérêt à placer des textes dans un discours, en fait, c'est de vous dire que ce moment euphorique qui nous conduit au peuple souverain, qui est ça, en fait, c'est-à-dire le basculement d'une souveraineté nationale qui va être ravie en totalité, mais en totalité au roi, parce que contrairement à ce qu'on croit, la monarchie constitutionnelle est impossible en France. Telle qu'elle a commencé à se dérouler, elle est impossible. Moi, quand j'étais gamin, on me disait, c'est la faute à Louis XVI. Mais non, c'est pas la faute à Louis XVI. C'est comme disait Auguste Comte, dès 89, dès septembre, la France, c'est une république, c'est une monarchie, c'est une république avec un roi. Voilà. Donc, ça veut dire que toutes les idées, ici, celles de la servitude volontaire, ou à l'opposé, celles qui prônent l'autorité, l'ordre, etc., qui vont être Burke, mais plus tard Demestre ou Bonald, qu'admirera Napoléon. Hein, c'est l'ordre, d'abord l'ordre. Vous savez, c'est ce que disait Napoléon III. La liberté est dans l'ordre. Et là, on est à l'opposé, en effet, de ce que Marat avait comme idée, et très tôt. La deuxième, c'est bien.
Oui, une petite question, une petite grosse
question.
Il
a une wild card, comme on dit, en tennis.
Ah. dans votre problématique, vous avez avancé l'idée que Louis XVI aurait été trop libéral. Hein, c'est une des hypothèses.
Oui, alors, une expression assez facile pour...
Ma question, c'est, est-ce qu'il n'est pas très faible? Est-ce que la monarchie, pas en tant qu'individu, mais la monarchie, est-ce qu'elle n'est pas déjà fortement...
Elle est faible. Vous savez pourquoi elle est faible? Elle est faible. Vous savez, on peut être de plusieurs manières faible. C'est ce qu'a dit Louis XVI lorsqu'il a assisté au 10 août. Napoléon, lorsqu'il a assisté au 10 août, il a dit de Louis XVI, quel couillon. Hein, c'est-à-dire de s'être fait comme ça, Bernet. Il y a plusieurs manières d'être faible. La faiblesse de la monarchie, elle est dans la définition même de ce qu'est la monarchie de l'époque. C'est-à-dire une monarchie qui n'est pas une monarchie éclairée. C'est pas une monarchie despotique. C'est-à-dire, en fait... Que, alors dites-moi, dites-moi, qu'est-ce qu'aurait été un roi moins faible? On peut s'amuser, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qui aurait été, d'après ce que j'ai dit, d'après ce que vous savez, puisque vous êtes historien, qu'est-ce qui aurait été, et parce que le débat peut être ouvert, c'est intéressant, qu'est-ce qui aurait été un roi qui soit moins faible? C'est moi qui pose la question.
Oui, oui, je vous remercie.
C'est intéressant.
Oui, oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas évoqué le 11 juillet? Finalement, le 11 juillet, lorsqu'il fait appel aux troupes, ça montre d'une certaine façon la faiblesse. Il n'a plus aucun moyen, aucun autre moyen que de faire appel aux troupes.
Et ah oui, mais ça ne répond pas à ma question.
Oui, mais...
Non, la question... Non, je vous suis. Le 11 juillet, Paris commence à être encerclé. Bon, déjà, il faudrait voir, Paris est complètement vide d'ennemis de ce qui se produit à Paris. C'est-à-dire que la Bastille est prise, les Sangus qui sont dedans et Delaunay en premier... sont des victimes expiatoires, parce qu'il n'y a aucun danger. Delaunay, s'il avait ouvert les portes de la Bastille, il n'y aurait pas eu de prise de la Bastille. Les Invalides, elles sont ouvertes par le gouverneur. Elles sont ouvertes parce qu'il a envie de sauver son cul, entre guillemets, excusez-moi l'expression, il sauve sa tête. Delaunay, lui, il veut pas sauver sa tête, parce qu'il est l'incarnation même de la monarchie. Il n'a pas reçu d'ordre du roi. Vous savez, quand naît la Dauphine, en 78, vous savez, il ne fait pas tirer le canon de la Bastille. On lui dit, non mais attends, c'est quoi ce truc? Il dit, j'ai pas reçu d'ordre. Delaunay était un faible, sorte de, vous voyez, de gouverneur, il se succédait presque de père en fils. Donc, un Louis XVI moins faible, c'est un Louis XVI qui n'aurait pas été un roi, pour moi, tel que la monarchie l'avait depuis plusieurs siècles. C'est-à-dire un roi qui ne décide jamais sans son parlement, qui n'enregistre jamais les lois sans convoquer son parlement. Et là, je plaide pas pour Louis XVI, mais Louis XVI, qu'est-ce qu'il va dire, le pauvre, lors de son procès? Mais il comprend pas. Et moi, quand j'étais étudiant, en effet, plus tard, je me dis, mais finalement, mais c'est quoi ce procès? Alors, bien sûr, il s'est passé plein de choses, hein, on est d'accord, c'est un procès... C'est un procès moscovite avant la lettre, hein, Louis XVI. Bon, mais ok. Mais il a jamais fait tirer sur son peuple. Il le dit d'ailleurs. Il dit mais. D'ailleurs, il en a été victime. Il fait pas tirer sur son peuple. Il veut jamais faire tirer sur son peuple. En fait, ce qui se produit le 11 juillet, c'est la reine, c'est ses frères, son frère surtout, qui lui disent maintenant, on va arrêter les conneries. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. On va arrêter maintenant. Maintenant, il faut. Maintenant, ça a été trop loin. C'est-à-dire ce scénario que je vous montre. Il a été trop loin, mais on peut pas aller contre une parole qui est devenue, et c'est Philippe Joseph Salazar, c'est un grand politiste qui vit aux États-Unis, qui est français, qui a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle L'hyperparole, une passion française, et je terminerai là-dessus, qui vous dit que, et ça c'est purement français, c'est en fait ce qu'on appelle l'hyperparole. Et il vous dit que c'est presque complètement l'inverse de l'expression de l'opinion publique. Et il vous cite, alors un peu facilement, je le reconnais, parce qu'il cite les causeries du lundi des frères Goncourt, il dit cette fameuse phrase de Mirabeau à Sieyès, « Les Français sont des singes au larynx de perroquet. » Quel cynisme! Mais ce que reprochent les monarchistes aux républicains, c'est souvent ça, c'est le cynisme des républicains. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une monarchie républicaine aujourd'hui. Alors maintenant, il n'y a plus d'aristocrates, il n'y a plus trop de royalistes. Moi, j'ai des amis royalistes, mais enfin bon, ils ne sont pas nombreux. C'est plus l'époque d'Action française, ça existe encore, mais c'est plus cette époque-là. Mais c'est ça que les monarchistes reprochent souvent à la République. C'est en fait ce cynisme qui les a remplacés. Et Napoléon, finalement, n'est guère qu'un roi modernisé. Et un roi...
Qui avait de la poigne.
Il avait de la poigne, lui par contre il n'était pas faible.
Celui-là n'était pas faible. Bon, voilà. Nous allons hélas devoir libérer la salle, alors j'ai...